bonjour à tous. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la... J'étais pas tout à fait prêt.
Nous... Ouais, mais ça m'étonne que ça marche en fait, parce que d'habitude tu mets 3 heures à régler tes trucs.
Ouais, mais là,
que
écoute, tout est bien. L'ordi, c'est une belle journée aujourd'hui. si tu veux, c'est l'été, hein, depuis le.
Depuis une semaine, à peu
non,
près,
mais c'est le 21 mars, on passe officiellement à l'été.
Non,
si, c'est
comme...
printemps. Non, non, alors c'est une réforme qui est passée récemment. On a 6 mois d'été, 6 mois d'hiver.
6 mois d'été, 6 mois d'hiver.
Il n'y a pas de saison entre les deux.
C'est ça, c'est ça.
Nous sommes le lundi 25 mars 2024. Bonjour à tous, c'est La Belle et le Gamer et c'est l'épisode numéro 318. Gros épisode cette semaine, on a plein de jeux qui sont sortis, il y a plein d'actu, il y a plein de trucs, c'est incroyable.
D'accord.
Incroyable. Époustouflant.
Ok.
Allez, on va s'y mettre. J'espère que vous allez bien chez vous. Avant de commencer, qu'est-ce qui se passe ici ? Ma chère Aza et moi-même Ben, on est là tous les lundis pour vous raconter tout ce qui se passe d'intéressant dans le monde des jeux vidéo. Ça veut dire une analyse de l'actu brûlante, des tests pointus des dernières sorties et un décryptage précis des rumeurs les plus incroyables. Le podcast est disponible partout où on peut trouver des podcasts. On stream également de temps en temps sur Twitch, pas trop en ce moment. Et on se balade sur les derniers réseaux sociaux à la mode. Mais surtout, vous pouvez nous retrouver tous les deux ainsi que tout le reste de la communauté du podcast sur Discord. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous laisser un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme.
C'était que ce truc.
Je sais pas. Sur votre place, ça m'a perturbé. Il y a des notifications à la con. Voilà, désactivé. Je sais plus ce que je disais. Bref, mettez 5 étoiles partout et puis patreon.com/labelgamer pour nous envoyer des sous.
C'est ça.
Important. Merci. Rendez-vous dans les notes de cet épisode pour tous les liens utiles. Mais voilà, on est prêt. On est prêt. On va commencer cet épisode sur les chapeaux de roue. comme. Attends, j'ai des expressions qui datent des années 50.
C'est ça.
Tout à fait. C'est mirobolant.
Ben, on est vieux, hein. Putain, j'ai 42 ans la semaine prochaine.
C'est la vérité. Si vous voulez envoyer des cadeaux à Aza, encore une fois, patreon.com/labellegamer, les jeux de la semaine. À quoi on a joué cette semaine? On a joué à plein de choses.
Bah, trop. En fait, trop. Le dernier, je n'ai pas supporté, je crois.
Ouais, t'as saturé.
Ouais.
Le dernier ou dernier avant-dernier ou...
Dragon's Dogma.
Dragon's Dogma. Bah, commençons par Dragon's Dogma.
J'arrive pas.
T'es pas rentré dedans?
Non.
T'es pas rentré dedans. Il est un petit peu particulier, Dragon's Dogma. Ouais, on a plein de jeux dont on va parler.
Mais après, par exemple, la période d'avant qui était trop, en fait, FF7, j'avais pas envie, tu vois. Mais finalement, maintenant, FF7, ça va, c'est trop bien.
Ouais.
Donc, du coup, vu qu'on a fait 50 jeux d'un coup, là, peut-être que Dragon's Dogma, pour l'instant, c'est celui de trop, quoi, tu vois.
Alors,
donc, je sais pas si ça reflète vraiment ce que j'en pense ou si, pour l'instant, voilà, je me sens juste pas.
On a quand même une saturation. C'est un petit peu effrayant le nombre de bons jeux qui sortent, parce que Dragon's Dogma est clairement un bon jeu. Mais c'est aussi peut-être parmi tous ceux qu'on a joué récemment le plus hermétique, dans le sens où c'est celui qui arrive avec un petit avec plus d'originalité et qui demande pas mal d'implication aux joueurs pour rentrer dedans. Mmh. Parce qu'il est un petit peu différent. Donc Dragon's Dogma 2 est sorti ce vendredi chez Capcom qu'on remercie de nous avoir fourni un exemplaire du jeu.
Merci.
Qu'est-ce que c'est Dragon's Dogma 2? Donc c'est la suite de Dragon's Dogma 1. Jusque-là, c'est logique. Alors c'est pas vraiment une suite. Non, mais voilà, j'en parle parce que c'est pas vraiment une suite. C'est plus, ça s'appelle Dragon's Dogma 2, mais dans la philosophie, c'est plus un reboot, un remake.
D'accord.
Voilà. On fait le même style de jeu qu'il y a 12 ans. On fait le même type de jeu, mais avec un peu une nouvelle histoire, un petit peu, et surtout des techniques et des moyens modernes pour vraiment se donner les moyens de faire les idées un petit peu, qui étaient un petit peu trop novatrices à l'époque, il y a 12 ans, et là aujourd'hui c'est un petit peu plus possible de les concrétiser. Mm-hmm. Donc c'est un petit peu ça qu'ils essaient de faire avec Dragon's Dogma 2. C'est un jeu de rôle. Alors c'est, même si c'est une production japonaise, j'ai du mal à appeler ça un JRPG parce que c'est pas vraiment dans le style du JRPG. On n'a pas cette ambiance un petit peu animé japonais, on n'a pas le tour par tour, on n'a pas les classiques du JRPG japonais.
Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est un jeu japonais, Mais on dirait un jeu occidental,
c'est
en fait.
C'est un univers médiéval occidental avec des dragons, des harpies et des griffons et des nagas et des trucs comme ça, des trucs que tu vas vraiment emprunter aux mythologies et aux classiques du jeu de rôle occidental. C'est un petit peu, si tu veux, c'est un petit peu le Skyrim de Capcom.
C'est ça, ouais.
Où tu as un scénario. Alors, c'est pas le même scénario, hein, mais oui, tu incarnes un peu un espèce d'élu qui est attendu depuis longtemps. Et tu sors de rien, hein, tu commences le jeu en prison, voilà. C'est l'élu qui part de rien et qui va avoir des aventures pour retrouver son destin, un petit peu. C'est un scénario assez classique. Tu crées ton personnage au début, un créateur de personnage assez complexe sur l'apparence physique de ton personnage. Après, pour le côté gameplay, bah, t'as le choix entre quatre classes très basiques. Voleur, archer, guerrier, mage. Après, une fois que tu progresses dans le jeu, il va y avoir des spécialisations et ça va s'ouvrir un petit peu, mais pour l'instant, c'est à ça que tu as accès. Et tu démarres le jeu comme ça.
Ouais, mais quand même, le principe du jeu, c'est que t'es pas tout seul.
Voilà.
Moi, je crois que ça me plaît pas trop, tu vois.
C'est au cœur de Dragon's Dogma et au cœur de Dragon's Dogma 2, c'est le système de pion.
Ouais.
Donc très vite, tu vas créer un deuxième personnage, c'est ton pion à toi. Et en fait tu vas t'entourer de plusieurs pions, le tien que tu vas créer. Donc tu le fais vraiment à l'image que tu veux, t'as de nouveau ce même créateur de personnage qui pop et tu fais exactement la même chose pour un pion, mais tu peux en avoir plusieurs avec toi, donc tu as possibilité d'invoquer d'autres pions, et les pions que tu invoques, c'est des pions qui ont été créés par d'autres joueurs. Hein, donc voilà, tu vas vraiment puiser dans un pool de différents pions, et les pions, c'est un petit peu de la chair à pâté, ils sont renouvelables, si jamais ils meurent, bah, ils sont morts, tu les remplaces, tu en invoques un autre, des trucs comme ça, parce que dans ce jeu là la mort est plutôt permanente, donc si tes pions meurent, il faut en trouver un autre. Il y a possibilité d'en ressusciter par des objets que tu vas trouver en jeu relativement fréquemment, rarement, selon. Mais et faut savoir qu'il n'y a que ton pion principal, celui que tu as créé, qui gagne en niveau et qui progresse avec toi. Les autres pions, ils sont bloqués au niveau où tu les as invoqués. C'est-à-dire, de temps en temps...
il faut en tuer un pour réinvoquer un autre.
Tu les remplaces, tu les désinvoques, tu dis, bon, bah voilà, toi, j'ai fait mon temps avec toi, je vais en prendre un autre. Maintenant que je suis plutôt dans la tranche niveau 15 par là,
ouais,
je vais plutôt renouveler mes pions et prendre des nouveaux pions niveau 15. Et voilà, donc ça c'est le concept du jeu, c'est vraiment de t'encadrer d'un groupe de personnages joués par l'IA,
c'est un groupe qui est pas un groupe finalement, parce que moi au début ça m'a un petit peu fait penser à Baldur's Gate,
ouais.
Et puis finalement parce que ton groupe, tu le contrôles pas vraiment.
Non, tu le contrôles pas du tout. C'est des IA, ils font ce qu'ils veulent.
Bah ouais, mais
ils font ce qu'ils veulent. Mais alors c'est bizarre, mais c'est
bizarre, hein.
Si tu veux, et c'est là que Dragon's Dogma est novateur et qu'il apporte des idées et des trucs que tu vois dans aucun autre jeu. C'est-à-dire que non seulement ils sont contrôlés par des IA, mais ils sont influencés par ce qu'ils ont appris de leur maître. C'est-à-dire que si leur maître a une façon particulière de jouer, ils apprennent des techniques, ils apprennent des façons de jouer qui vont se répertorier dans ton jeu à toi. C'est-à-dire que moi, par exemple, si j'ai envie de... Les petits gobelins, les petits... Je sais pas comment ça s'appelle, les petits monstres à la con que
gobelins,
tu trouves au début, c'est des gobelins.
Ouais.
Alors moi, je suis un voleur, donc je les tue à la dague et tout, machin. Mais si jamais il me prend l'idée d'en attraper un, de le soulever et de le balancer du haut de la falaise, mon pion, il va voir ça, il fait « Oh, c'est fou comme technique !» Il va m'imiter et il va aller dans les parties des autres, les autres qui vont invoquer mon pion. Il va aller dans les parties des autres et il va faire ça, il va ramasser les matchs, il va les lancer. Et tu as d'autres joueurs qui font, mais il est fou ce pion, il fait n'importe quoi. Mais parce qu'il a appris des choses de moi.
Donc quand tu fais une connerie dans le jeu, ça se répercute sur toutes les parties des autres joueurs.
Et donc tu vas avoir un groupe.
Quelle horreur! Mais c'est comme dans la vraie vie, c'est horrible.
Tu vas avoir un groupe composé de pions qui vont avoir appris des manies et des mimiques et des trucs comme ça d'autres joueurs et d'un machin. Et tu vas avoir des comportements qui vont se propager comme ça. Et donc c'est une espèce d'expérience sociale intéressante.
C'est ça, il y a tout un degré social.
Il y a tout un degré social comme ça qui est marrant. C'est. Voilà.
Enfin, qui peut
alors, être. C'est rigolo.
Ce qui peut être super marrant, mais perso, je sais pas si ça me branche, parce que moi j'aime bien être toute seule dans les jeux.
Ça apporte de l'imprévu à ta partie.
Ah non, c'est rigolo.
Ça apporte des moments rigolos, et voilà. Alors ça marche bien dans un contexte moderne avec les réseaux sociaux, les TikTok.
Ah non, oui,
comme
ça. Donc, ça marche, ouais.
Je veux dire, j'ai vu un TikTok ce matin ou hier d'un mec qui invoque un pion qu'il connaissait pas, tu vois. Et il va se balader dans la forêt, il tombe sur une espèce de troll de 5 mètres de haut. Et le premier truc que fait le pion, c'est sauter sur le dos du troll, monter sur ses épaules, et le faire courir, le diriger vers la falaise, et ils tombent tous les deux du haut de la falaise. Voilà, le pion il est mort, le troll il est mort, et voilà, c'est ça. Et tu regardes ça, toi t'es là, tu fais, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Et il se passe des trucs assez inattendus. Et c'est un jeu, alors on peut... Il se fait comparer à des trucs comme Elden Ring ou Breath of the Wild, parce que c'est un jeu qui va promouvoir la découverte et l'aventure,
l'exploration.
Okay. C'est-à-dire que tu as une quête principale qui va t'emmener à un endroit, mais ce n'est pas cette quête principale qui est intéressante, elle est presque même anecdotique. Ce qui va être intéressant, c'est les aventures que tu vas avoir en chemin, c'est les trucs, tu vas tomber sur un camp, sur une grotte, sur un machin, et il va t'arriver des choses assez folles, assez inédites, assez imprévues, parce que tu as tous ces systèmes d'IA, de décisions, de trucs, d'événements qui vont faire que tu vas avoir une émergence d'aventures imprévues, pas scriptées, mais...
Oui, et puis unique à chaque joueur, unique, en fait.
Et, chaque, et voilà. Et encore une fois, nous, on n'a pas beaucoup joué. C'est un jeu qui est sorti vendredi, on est dimanche. Voilà,
On n'a pas encore beaucoup joué.
Il y a beaucoup de choses qui sont sorties en même temps. Donc, nous, on n'a pas encore franchement d'expérience, quoique il est déjà arrivé des trucs assez rigolos. Mais j'ai vu des vidéos de gens. Voilà, il y avait un troll qui avait popé de l'autre côté d'un ravin. Et le troll, il trébuche, il tombe. Et en tombant, son corps fait un pont entre les deux côtés du ravin. Et les mecs ont marché dessus pour passer de l'autre côté. Tu vois, il se passe des trucs inattendus, des trucs bizarres et des trucs qui vont exacerber un sens de l'aventure assez cool.
Oui.
Et ça, venant d'un développeur comme Capcom, c'est assez surprenant.
C'est vrai.
Capcom qui est très habitué aux expériences carrées, scriptées, quoique avec Monster World, c'est encore autre chose, mais Monster Hunter World, c'est encore autre chose. Mais voilà, c'est assez surprenant. Et c'est ce que faisait le premier Dragon's Dogma, qui est un jeu culte, au sein d'une petite communauté de gens qui ont vraiment accroché à ce concept et qui avaient la volonté d'un petit peu fermer les yeux sur toutes les limitations techniques pour justement essayer de s'imprégner de ce côté aventure. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à aborder dans cette version.
D'accord.
Mais du coup, c'est un jeu qui nécessite une certaine implication.
Ouais,
il faut te poser devant le jeu. Voilà, j'ai créé mon personnage, je vais faire du roleplay, je vais faire un jeu de rôle, et je vais avoir l'esprit ouvert à ces aventures qui m'attendent. Et on va pas me tenir la main, et on va pas...
Oui, c'est pas un jeu où tu éteins le cerveau.
Non.
C'est un jeu où il faut le garder allumé, quoi.
Voilà. C'est un jeu où il faut être éveillé à ce qui se passe dans le monde autour de toi. Tes décisions peuvent avoir des grosses conséquences. Et c'est pour ça que... Alors, ils en avaient parlé, et là on va rebondir sur un sujet qui est intéressant, mais ils en ont parlé en interview avant que je sorte. C'est assez compliqué de fast travel dans ce jeu.
Oui.
Parce que le concept du jeu, c'est qu'ils veulent pas que tu fast travel. Ils veulent que tu ailles d'un point à l'autre et que tu aies cette aventure.
Que tu aies les aventures sur le chemin.
Et tu l'as fait de jour, ça, il s'est passé un truc, tu l'as fait de nuit, tu as une expérience complètement différente parce que c'est pas les mêmes créatures, c'est pas les mêmes événements, les machins. C'est vraiment le dicton, c'est le voyage qui est intéressant, pas la destination.
C'est ça.
C'est Dragon's Dogma, c'est ce type de jeu. Voilà. Donc après, c'est un jeu... Après, il n'y a pas que des bons côtés. Il y a vraiment ces côtés qui sont novateurs et qu'on recherche dans les jeux vidéo quand on cherche un petit peu d'originalité et qu'on ne veut pas des jeux qui sont tous les mêmes. Donc ça, c'est cool. Il y a des mauvais côtés aussi. Alors, le jeu fait beaucoup parler de lui depuis qu'il est sorti à cause de ses microtransactions. Si tu vas sur la page Steam, par exemple, de Dragon's Dogma 2, tu vas avoir une liste longue comme le bras de trucs que tu peux acheter pour 99 centimes, 1,99€, 2,99€. Et donc, ça a un petit peu scandalisé les joueurs. Les joueurs ont fait, ouais, voilà, on paye déjà le jeu 80 balles et en plus, il faut rajouter des sous si tu veux. Et les trucs que tu peux racheter, c'est des objets à usage unique. Ça va être des choses qui vont te permettre de... Par exemple, justement, de ressusciter un pion ou un personnage. Ça va être des trucs de fast travel. Ça va être des trucs qui vont te permettre de recustomiser ton personnage. Ce genre de choses. Et les gens s'insurgent un petit peu parce que...
c'est nul quand même.
C'est un petit peu nul, on est d'accord, c'est complètement nul, mais c'est également des objets que tu peux avoir dans le jeu relativement facilement ou relativement pas cher.
Ouais.
Donc c'est vraiment... c'est des petites facilités.
Si tu as de l'argent et que tu veux le mettre quelque part, voilà, ok.
Voilà, c'est ça. Et donc c'est moche, mais, c'est pas, mais les gens se réveillent aujourd'hui et ont envie de s'insurger contre ce jeu-là en particulier, je comprends pas trop personnellement, parce que Capcom fait ça depuis des années et des années et des années. Mmh. L'année dernière, tout le monde a encensé le remake de Resident Evil 4 quand il est sorti. Le remake de Resident Evil 4 faisait exactement la même chose. Et tu vendais pour 2,99€ des passes pour upgrader tes armes.
Ah oui.
Voilà.
Oui, donc c'est pas mieux.
Hein, c'est pas mieux. Monster Hunter World fait la même chose. Devil May Cry 5 fait la même chose. Devil May Cry 5, tu peux acheter littéralement des packs de points d'expérience. Tu vois. Capcom a toujours fait ça. Donc c'est moche, mais c'est pas nouveau.
D'accord.
Et remis dans le contexte du jeu, ça n'a pas d'impact. Personne te force à le faire.
Ah oui, bien sûr.
Personne te force à le faire et tu n'as pas vraiment de réel avantage en le faisant. Donc ça, c'est un problème. Deuxième chose qui est un petit peu embêtant et qui embête un petit peu les fans, et là, je les rejoins, c'est un côté technique du jeu qui est pas au top. La version console du jeu RAM, c'est une catastrophe, que ça soit sur Xbox ou sur PS5, un peu plus sur PS5 même. C'est des performances qui sont très basses. Là, il n'est pas question de choisir entre un mode fluidité ou un mode performance. T'as un seul mode et il rame et on descend en dessous de 20 images par seconde et c'est irrégulier, ça saccade, c'est à jouer, c'est un petit peu pénible.
Ok.
Sur PC, évidemment, si tu as un PC puissant, ça se voit un petit peu moins, mais il y a quand même des grosses variations.
Mais pourtant, c'est bizarre parce qu'ils l'ont fait avec le moteur de Resident Evil.
Ouais, tout à fait. Et c'est un moteur qui n'est pas vraiment hyper maîtrisé quand il s'agit de faire des open world.
Oui, voilà, c'est ça. C'est pas forcément adapté à l'open world. Ouais.
Voilà, c'est la première fois qu'ils font un vrai open world avec ça. Et c'est pour ça que tu as des variations. Tu vois, parfois, tu es en intérieur, tu es dans un petit donjon et ça se passe très bien, tu vois. Mm-hmm. Le jeu, il commence dans des cachots, des trucs comme ça. C'est magnifique, c'est bien éclairé, c'est cool. Mais quand tu commences à être en monde ouvert où tu peux aller dans tous les endroits et tu as des PNJ qui popent dans tous les sens et des ennemis et des trolls qui te balancent des arbres qu'ils ont déracinés, ouais, là, ça commence à être plus compliqué. Et tu as des gros flux de fluidité, même sur des machines très puissantes. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment d'optimisation ou que l'optimisation peut encore être améliorée. Mmh. C'est-à-dire que tu as les mêmes problèmes sur des configurations modestes que sur des très gros PC.
Oui, d'accord.
C'est-à-dire que
c'est pas un problème de performance, c'est pas un jeu du matériel.
C'est pas un jeu qui va te demander un très gros PC pour le faire tourner. Ça tourne aussi sur des configurations modestes. Le problème, c'est que même sur des très gros PC, tu as exactement les mêmes problèmes que sur des petites configurations. Mmh. Et ça, c'est un petit peu frustrant quand tu as mis 4000 balles dans ton PC de ne pas pouvoir avoir une résolution stable ou ce genre de choses.
Oui, après, voilà. De base, le jeu, je m'attendais à plus beau, moi. Mm-hmm. Je trouve que les personnages sont très...
Niveau animation, ouais.
Enfin, carré.
C'est un peu carré, c'est un petit peu rigide. Mais c'est aussi très varié en animation. Il se passe plein de trucs.
Voilà, c'est sûr, c'est un open world, mais bon...
Non, mais je veux dire, même d'un point de vue animation des personnages, c'est un jeu dans lequel tu vas te battre contre des créatures qui sont très grandes, tu peux les escalader, leur grimper dessus. Voilà, il y a plein de
possibilités de mouvements différents. Il y a plein de choses à faire physiquement, mais par contre, ton expression, ça reste la même, quoi.
Ah oui, c'est sûr.
C'est l'un ou l'autre.
C'est sûr.
Tu peux grimper sur le dos du serpent, par contre, tu lui fais pas un sourire. Hein.
Oui, non, non. C'est un petit peu rigide de ce côté-là. On est d'accord. Voilà. Non, Dragon's Dogma 2, c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel, mais qui demande de l'investissement. Et c'est vrai qu'au milieu de tout ce qui sort en ce moment, moi, c'est peut-être un jeu...
Il faut peut-être le garder un petit peu pour plus tard, hein, à mon avis. Hein.
Le mettre de côté pour plus tard, ça peut être une bonne chose. Ça peut aussi permettre à Capcom de sortir quelques patchs de performance.
Tout à fait.
L'un dans l'autre, ça peut être bénéfique. Voilà, pour Dragon's Dogma 2, c'est sorti vendredi, c'est dispo sur PC, PlayStation et Xbox. On a également testé cette semaine Rise of the Ronin.
Ouais.
Ça, c'est disponible uniquement sur PlayStation 5. Hein. C'est une exclusivité Sony. On remercie PlayStation de nous avoir fourni un
Merci
exemplaire
Sony.
Du jeu. Merci, des bisous. Jim Ryan.
Non, pas lui.
Non, ça y est, il est parti. Non, il part en avril, je crois.
Ouais, mais c'est pas lui qui nous les a envoyés, les jeux, c'est le
si,
nouveau.
Si, personnellement, c'est Jim.
C'est le nouveau.
Il a signé le mail Jimmy.
Jimmy Kerr.
Il a mis un petit cœur. Rise of the Ronin. Alors, c'est une exclusivité Sony, c'est édité par Sony, mais développement, c'est Team Ninja. Hein, c'est nos amis qui ont fait des jeux comme Nioh et Wolong Fallen Dynasty l'année dernière. Donc voilà. Connaissez un petit peu le type de jeu, c'est pas des clones de Dark Souls, mais c'est des jeux qui se basent sur la même philosophie de combat exigeant, avec des parades, avec des contres, avec tout ce que tu veux, hein, mais avec différentes postures de combat. Et on retrouve un petit peu tout ça dans Rise of the Ronin, mais dans un gameplay vraiment différent, puisque là, on est sur un open world.
C'est vrai. On est sur un open world et on est quand même sur un gameplay plus accessible. Le jeu est plus facile que la moyenne, quand même.
Complètement.
Voilà.
Alors, on est au début, hein.
Oui.
On est au début, mais ça va. Tu bloques pas 8 heures sur un boss, quoi. C'est,
non.
Ça se passe assez... Après, est-ce que je suis devenu particulièrement fort, mais c'est possible.
Non, mais
aussi,
je veux dire, c'est un jeu qui me fait plus penser à Ghost of Tsushima que...
Complètement.
Que à Wolong, par
exemple. Complètement. Voilà. Ghost of Tsushima, qui lui aussi mettait l'accent sur le combat au sabre et ce genre de choses.
Voilà. Bon, c'est un peu plus dur que Ghost of Tsushima, et c'est un peu moins beau que Ghost of Tsushima, ouais. Pardon. Mais
c'est beaucoup moins beau que Ghost of Tsushima.
C'est beaucoup moins beau, et c'est plus axé sur le combat, mais il y a cette carte que tu dévoiles avec des activités, les petits camps, les machins, voilà.
Alors, Rise of the Ronin, c'est un jeu historique, on va dire. Hein, c'est dans un contexte historique. On est au Japon pendant l'ère du Bakumatsu.
Oui, on est encore avec...
C'est la fin du shogunat, c'est le dernier shogun, c'est l'ouverture du Japon à l'Occident, c'est les navires occidentaux britanniques, américains qui sont arrivés sur la côte japonaise.
La même période historique que Dragon Ishin.
Ouais, si vous avez joué récemment à Like a Dragon Ishin, c'est exactement à la même période. On retrouve même des personnages, comme comment il s'appelle.
Sakamoto Ryoma.
Ouais, Ryoma Sakamoto, c'est des personnages historiques qui ont existé, qu'on a croisé dans Ishin, qu'on recroise ici dans Rise of the Ronin. Donc c'est cette époque-là. Alors le jeu il se présente de façon assez originale, même pour ce type de même pour Team Ninja. Si tu veux, au début tu vas créer deux personnages.
Oui.
Première chose que tu fais quand tu lances le jeu, c'est un créateur de personnages qui te demande de créer deux personnages. Parce que le scénario... Oui,
c'est des lames jumelles.
C'est des lames jumelles, c'est un duo d'assassins que tu vas incarner. Alors, complètement customisable, hein, tu peux faire un homme, une femme, deux hommes, deux femmes. Mais c'est un duo d'assassins et au début, tu crées les deux de façon égale. Et très vite, le jeu va te demander de choisir ton personnage principal, de faire un choix parmi ces deux personnages. Et après, voilà, le jeu est plus centré sur ce personnage principal. Mais le concept du duo, c'est quelque chose qui est conservé dans une grande partie du jeu.
Oui.
Tu vas faire beaucoup de combats et beaucoup de sections du jeu à deux, voire à trois.
Oui. Oui, parce que tu vas rencontrer des personnages le long de ton périple, etc. Voilà.
Exactement. Et forger des liens, c'est au cœur du gameplay.
Ça aussi, c'est au cœur du gameplay, ouais.
C'est
Et donc, du coup, bah, ça enlève un petit peu de la difficulté de jouer tout seul contre des ennemis trop forts pour toi.
Voilà,
quoi. Voilà, là, t'es à deux.
Il faut s'imaginer des jeux, des Souls-like, souvent, et surtout chez From, les Souls-like te permettent d'invoquer une aide pour les boss ou des trucs comme ça. Donc tu es à deux sur le boss et tu as une IA qui t'aide. Là, c'est pareil, tu as deux sur les boss et sur les combats avec une IA qui t'aide, mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'avec une combinaison de touches, instantanément, tu passes de l'un à l'autre et tu peux contrôler les deux de la façon que tu veux. Et c'est intéressant parce que tu vas avoir un système de pierre, papier, ciseaux en fonction des armes et des postures que tu as. Ça rappelle un petit peu Ghost of Tsushima, où tu vas avoir ton personnage, par exemple, qui a une arme qui n'est pas adaptée contre un personnage à bouclier ou un truc comme ça, mais l'autre personnage est beaucoup plus adapté. Donc voilà.
Ouais, tu switches et tu passes sur l'autre personnage qui est plus.
Exactement. Ou même au cœur d'un combat, même au cœur d'un combo, si tu veux, tu es en train de te battre contre un mec,
l'IA finit ton truc et tu passes sur l'autre, en fait.
Tu es en train de faire un combo contre un mec qui part toutes tes attaques et ça passe pas et ça sert à rien ce que tu fais. tu, pendant le combo, tu switches sur l'autre instantanément et tu peux donner des attaques dans le dos et voilà, et faire des trucs. Donc c'est assez malin. S'il y en a un qui meurt, tu contrôles l'autre automatiquement et tu as la possibilité de ressusciter celui qui vient de mourir. Donc ça donne de la ça rajoute de la dynamique au combat et ça et je trouve que ça rend le truc un petit peu plus facile parce que tu as des t'as des portes de sortie dans les combats qui n'existent pas d'habitude dans ce genre de jeu. Le jeu est également
un peu plus rassurant.
Tout à fait. Le jeu a aussi des niveaux de difficulté que tu peux changer à la volée.
Ça, c'est bien, ça, ce qui n'existait pas dans ce genre de jeu.
C'est cool, c'est-à-dire que tu peux basculer en mode facile si vraiment tu as envie de progresser. Et ensuite, ce qui est aussi très différent dans ce jeu-là, c'est que c'est un open world. C'est pas... alors, quand je dis Souls-like... open world, les gens vont penser à Elden Ring, on n'est pas à ce niveau-là non plus. Mais
non,
oui,
c'est du open world comme Ghost of Tsushima.
Ça rappelle Ghost of Tsushima, pas seulement à cause de l'ambiance samouraï, mais...
à cause de, à chaque fois, tu vas libérer des villages. C'est vraiment les activités qui se ressemblent un peu. Quoi.
Qui se ressemblent un petit peu, c'est-à-dire que tu vas tomber sur des villages qui sont aux mains des brigands. Donc il va falloir tuer les brigands, alors tu as la possibilité de faire une approche furtive pour réduire un petit peu leur nombre, au moins furtivement le plus possible, et ensuite il y a le combat qui éclate contre ce qui reste. Il y a généralement un chef qui est un petit peu plus dur que les autres, et une fois que tu as libéré, les villageois reviennent au village, et ça ouvre une boutique, ça ouvre des trucs, un apothicaire, un forgeron, et ça voilà, et ça fait un village que tu as libéré sur la carte, et tu vas d'activité en activité sur ta carte à collectionner des trucs, à explorer des trucs, à récupérer des coffres. Tu as un système d'équipement, là par contre ça rappelle vraiment, c'est du Team Ninja à fond, ça rappelle Nioh, ça rappelle Wolong, parce que tu croules sous l'équipement.
Oui, tu... voilà. À chaque fois que tu tues un mec, t'as 5 pièces d'équipement qui tombent.
Tu explores une grotte, t'as tué 5-6 personnes dans la grotte, tu ressors, tu as 35 pièces d'équipement en plus. La plupart sont inutiles, mais tu vas choper... Ah, celui-là a 3 points d'armure en plus et 2 niveaux d'équipement en plus. Et il fait 1,8% de bonus contre les tirs à la tête, mais par contre, moins 1,2% contre les dégâts de feu.
Oui, c'est le classique.
Donc voilà, tu vas faire ton équipement comme ça, tu vas customiser ton personnage de cette façon-là. Et après, tu vas explorer la carte, l'open world, soit tu fais la quête principale qui va t'amener à divers endroits, qui vont te faire rencontrer plein de personnages pour faire des liens et des relations avec. Ou alors tu fais de l'exploration et simplement tu as la carte et tu vas cocher tous les trucs qu'il y a à faire dans la carte. Il y a une checklist, voilà, dans cette région, il y a deux villages à libérer, il y a 3 points de checkpoint à faire, et voilà. Tu vas faire tous les trucs qu'il y a sur ta carte et ça peut être intéressant, quoi.
Oui, voilà, ça c'est un open world, mais
c'est beaucoup plus classique.
Tu peux éteindre le cerveau.
Voilà. Là, tu peux éteindre le cerveau, cocher les trucs sur la carte, upgrader ton équipement, gagner des niveaux, apprendre des nouvelles compétences, apprendre des nouveaux styles de combat. C'est un jeu, il y a plein de types d'armes différents. Mais
oui, voilà,
jeu,
avec les armes. Ouais.
Voilà, le jeu va t'inciter quand même à choisir tes armes préférées et rester dessus parce que tu vas améliorer ta maîtrise. Arme par arme, et donc avoir un très haut niveau de maîtrise sur une arme en particulier, ça va te débloquer des grosses attaques. C'est plus intéressant que se disperser sur 6 types d'armes différents.
Après, chacun joue comme il veut. Hein.
Après, chacun joue comme il veut, mais tu vois, c'est intéressant de ce côté-là, quoi. Le jeu est moche. non, mais attends.
Le jeu peut
être très beau. Sur des environnements un petit peu soignés, quand tu as un gros plan sur les personnages qui sont bien animés, qui sont bien détaillés, avec le créateur de personnages, tu peux faire des trucs assez cool. Voilà, les cinématiques sont sympas, mais après tu vas te retrouver, encore une fois, c'est de la résolution adaptative. Quand tu te retrouves en centre-ville, alors qu'il pleut, il y a plein d'effets de reflets parce qu'il y a la pluie qui tombe, il y a les machins, il y a des tonnes de personnages, il se passe des tonnes de trucs. Tu sens que la résolution adaptative réduit pour garder une fluidité, fluidité acceptable. Et voilà. Par moments, les arrière-plans sont franchement dégueulasses, les textures sont quasiment inexistantes. Le jeu s'adapte pour rester fluide et ça se sent. Donc tu as vraiment des inégalités, mais bon, c'est un jeu qui est axé sur des combats un petit peu exigeants, donc ils essayent de mettre en priorité la fluidité, c'est normal
sur les combats, oui.
Sur les combats, mais ça se ressent visuellement. Sinon l'exploration est plutôt cool, tu débloques assez rapidement un planeur qui te permet de
ah oui, je sais pas peu.
C'est sympa, c'est Je trouve que c'est réussi. Voilà. Après, ça rentre dans cette niche-là, c'est-à-dire que c'est à la fois les combats exigeants de Team Ninja, c'est de l'open world à la Ghost of Tsushima, vraiment. C'est cool.
Après, justement, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus accessible au grand public que...
Ouais, et c'est très orienté gameplay, quoi.
Que peut l'être tous les autres jeux, hein, parce que rien que le fait qu'il y ait un mode facile, je veux dire, ça tranche avec tout le reste, y compris Elden Ring, quoi. Hein, ouais, donc,
complètement, c'est voilà, si c'est... vous avez un petit peu peur de ce type de jeu, je pense que... Alors, il faudra faire un petit peu d'effort sur certains boss, hein, c'est pas non plus trivial.
Non.
Mais c'est accessible. Mm. C'est très accessible. On a fait aussi, alors rapidement, hein, on a testé Sandland aussi cette semaine.
La démo.
Sandland, voilà, il y a une démo qui est disponible, hein, elle est disponible partout, vous pouvez vous faire votre idée vous-même. Sandland, c'est l'adaptation du manga le plus récent d'Akira Toriyama,
oui.
Qui nous a quittés il y a 2 semaines. Donc voilà, c'est un jeu qui était déjà en développement, évidemment, hein, qui est proche de sortir même. Là encore, on est sur de l'open world dans l'univers de ce manga, hein, de Sandland. Alors, le jeu s'appelle Sandland, la démo est dans le désert, mais il n'y a pas que du désert dans le jeu. Je connais pas le manga, hein, j'ai jamais lu Sandland, voilà. Tu incarnes ce petit gamin qui a l'air d'être un genre de petit démon bizarre. Tu explores ce désert, donc il y a une histoire qui est pas apparente dans la démo. La démo, c'est juste du gameplay pur.
Ouais, démo, c'est juste pour voir ce que c'est, quoi.
La démo te drop au milieu du désert et te dit, voilà, va taper sur des trucs, comme ça tu vois un petit peu comment le jeu bouge. C'est pas plus compliqué que ça comme démo. Tu as la possibilité d'invoquer des véhicules. Alors c'est très Akira Toriyama, puisque tu as la capsule, tu balances la capsule et tu te retrouves avec un tank. Il y a 3 véhicules dans la démo. Il y a ce gros tank, il y a une moto... Qui est assez, le tank est assez versatile, hein, tu vas pouvoir te battre, tu vas pouvoir te déplacer avec. La moto est pas très puissante en combat, mais elle va très très vite. Il y a un
mecha.
Ouais, tu as un mecha dans lequel tu peux rentrer, qui lui est très lent, mais par contre en combat il défonce tout, quoi. Donc voilà, et tu te bats contre, soit contre des là aussi classique de Akira Toriyama, des dinosaures bizarres qui se baladent dans le désert. Ou sinon t'as des brigands qui aussi ont des tanks et des machines, et voilà, c'est des combats comme ça qui sont pas très durs, c'est fun, ça bouge bien, tu peux aussi te battre évidemment à la main, hein, tu peux descendre du véhicule et faire des combos.
Oui, mais comme dit là, c'est vraiment juste pour voir comment se comporte le jeu, quoi. On en
reparlera plus profondément quand on sera plus proche de la sortie.
Mais
du jeu.
C'est beau, enfin.
Mais c'est beau, voilà. Le style graphique est bien retranscrit. Bien là, je veux dire, on atteint un niveau de technologie où on peut faire des jeux dans des univers d'animé japonais qui sont visuellement qui sont parfaits, quoi. Hein.
Bien sûr.
C'est vraiment retranscription fidèle du manga, de l'animé, et on a vraiment ce style qui est respecté au millimètre près. Et qui est bien animé, qui bouge bien. Techniquement, ça a l'air très, très solide. Hein.
Oui.
C'est très respectueux de l'œuvre. Donc voilà, Sandland, un gros potentiel à surveiller.
À suivre.
À surveiller. Sinon, Final Fantasy VII Rebirth, on a continué un petit peu notre aventure. Hein. On est à...
on est à poil sur la plage.
Ouais, on a passé à poil sur la plage. Maintenant, on est à poil dans la prairie.
D'accord.
Voilà, c'est ça. Non, on a passé le chapitre à Costa del Sol. On est un petit peu sur la suite de ça. Donc, on a un petit peu progressé. Mais c'est un jeu qui est très long et on progresse tout doucement parce que voilà, on aime bien faire tout à 100% et tout faire sur la carte et tout nettoyer. Donc.
Ouais, et puis en plus le Costa del Sol, il y avait plein de mini-jeux, tout ça, c'était assez long.
Mais dans le jeu, en général, il y a des mini-jeux tout le temps.
Tout le temps, ouais.
Tout le temps, c'est un jeu qui est bourré de mini-jeux.
Mais là, ça commence à être un tout petit peu trop pour moi, tu vois. Je crois qu'on a juste dépassé la limite, en fait, à Costa del Sol, ça m'a gonflé.
Il y en a eu beaucoup à Costa... ça t'a gonflé aussi dans un contexte où moi, j'insiste pour tout faire avec le score maximum et tout, parce que c'est des mini-jeux que tu peux aussi torcher en 30 secondes et passer à la suite.
Aussi, oui, t'es un peu lourd, on est d'accord, mais...
Non, j'assume une part de responsabilité là-dessus. Mais c'est vrai que Final Fantasy VII, l'original, était connu pour ses mini-jeux, et ils ont été fidèles à ça. Et c'est mini-jeux après mini-jeux après mini-jeux, mais ça apporte de la variété au gameplay. gameplay, ça rapporte un côté rigolo. Et voilà. Après, c'est des mini-jeux qui sont inspirés de trucs qui existent. Hein. Je veux dire, on a fait le mini-jeu Fall Guys, on a fait le mini-jeu Rocket League. Donc, bon, c'est marrant. Mmh.
C'est marrant.
Il y a aussi des mini-jeux répétés qui reviennent de remake. Hein. Le coup des abdos, on s'en serait passé. Mais voilà, non, c'est rigolo. Je pense que les mini-jeux, on n'a pas fini. Hein, parce que. Il y a le Gold Saucer qui arrive dans un futur relativement proche. Et
bah après, là, moi,
je pense qu'il aura ses mini-jeux aussi.
Non, mais ce qui m'embête un petit peu, là, c'était que tous les mini-jeux étaient...
C'est un peu décousu.
Alors, c'est décousu, mais c'était intégré dans l'histoire. Si tu les faisais pas, t'avançais pas l'histoire, quoi.
Ouais.
Donc fuck un peu.
Ouais, non, là, il y a...
Légèrement fuck quand même, tu vois. Fais un effort, quoi.
Mais encore une fois, l'histoire te force pas à tout faire. Tu vois, là, nous, on a tout fait
au maximum. Que...
En plus, voilà, en principe, t'as le choix entre les mini-jeux. Tu fais celui que t'as envie de faire, et ensuite, tu gagnes ton ticket, tu vas t'acheter ton maillot et tu avances. Là, non, je veux tous les maillots pour tout le monde.
Oui, mais c'est normal, ça. On fait toujours tout comme ça, nous.
Oui, non, c'est sûr, mais j'ai vraiment voulu faire tout à 100%.
Oui.
Et quelqu'un que ça va gonfler... peut skipper, tu vois. Il y a...
Ouais, mais attends, moi, je veux voir le maillot de Tifa et...
Ah oui, mais après, ça se mérite.
Et voilà.
Tu vois, le maillot de Tifa, il se mérite. Il faut... On est d'accord.
Le maillot de Tifa...
Si tu veux, il y a plein de choses. On va pas revenir dessus, non, hein, mais c'est un podcast public.
Je suis désolée, mais il y a un problème mais de gravité, quoi. De gravité, les gens, hein. Ça peut pas tenir tout seul, des trucs comme ça.
Donc, le jeu, si tu...
Je suis désolée, c'est pas possible.
Final Fantasy VII Remake, Rebirth, le jeu enchaîne les mini-jeux, mais le jeu a aussi conscience qu'il y en a beaucoup. Tu vois, par exemple, à un moment donné, il y a un tournoi de Queen's Blood, le jeu de cartes, où tu vas enchaîner plein de matchs. Ça peut être
pénible.
À tout moment, tu as l'option, t'as au comptoir, tu as une nana qui dit « Est-ce que tu veux te retirer du tournoi ?» Oui, non. Tu peux te retirer du tournoi en disant « Non, moi, Queen's Blood, ça me fait chier, avance l'histoire. »
Ouais, mais vas-y.
Non, les options existent pour les gens qui sont vraiment allergiques à ce truc-là.
Oui, mais je veux dire, pour des gens qui ont un ego comme le nôtre, on peut pas se retirer du tournoi, quoi.
Non, et on l'a pas fait. Mais... On l'a pas fait. Et tu es récompensé par des scènes qui sont plutôt marrantes sur les dernières phases du tournoi.
Ouais.
Mais l'option existe.
Putain, la fin du tournoi, c'était très
marrant. C'était...
On a bien fait d'aller au bout.
C'était rigolo. Voilà. Voilà pour les jeux auxquels on a joué cette semaine. Hein. Mm-hmm. C'était...
Non, on a joué à Plunderstorm.
Oh la vache. Pardon, j'ai fait un blocage dans mon cerveau.
Non, j'ai forcé. Alors, donc Plunderstorm.
Alors,
un nouveau mode de jeu de World of Warcraft.
Moitié actu, World of Warcraft met à disposition donc un nouveau mode de jeu qui s'appelle Plunderstorm.
C'est un Battle Royale.
C'est voilà. Alors, arrêtez-moi si vous avez déjà entendu ça quelque part. C'est un Battle Royale à 60 joueurs où tu te retrouves parachuté sur une zone dans laquelle tu dois être le dernier survivant. Tu t'équipes sur place en lootant des trucs.
Tu t'équipes pas, il n'y a pas de loot.
Enfin,
tu t'équipes des sorts.
Tu t'équipes de compétences, ouais, voilà. Ce qui est la même chose que de s'équiper d'une mitraillette, finalement. C'est philosophiquement, le résultat est le même.
Bah, non, parce que les sorts qui te filent, ils sont pourris.
Alors, les sorts qui te filent à toi sont pourris, mais les sorts qui filent aux autres...
Ah, ils sont vachement mieux.
Ils sont vachement mieux, quand même.
C'est clair. À chaque fois, tu tombes sur le mec qui a une espèce de séisme autour de toi, là.
Donc voilà, ça donne l'impression que Blizzard a monté avec des pièces détachées qui traînaient au garage. Ils ont monté un espèce de Battle Royale à l'arrache. Vraiment à l'arrache, parce que c'est sur une map existante qui a 20 ans.
C'est au Terre Zarati, hein.
C'est complètement séparé de World of Warcraft, hein. Tu crées un personnage spécial pour ce mode
tout
de
à
jeu.
Fait.
C'est un mode de jeu à durée limitée, hein.
Oui, alors le créateur de personnage est beaucoup plus light que vrai. Hein,
tu
évidemment.
Crées rapidement un personnage dans ce mode de jeu séparé qui nécessite quand même un abonnement à World of Warcraft pour jouer.
Bah ouais, quand même.
Voilà, et donc voilà, ouais, voilà, tu es parachuté en solo ou en duo contre 59 autres joueurs et le survivant à la fin gagne.
Mais c'est nul en fait, parce que ça reste Warcraft, donc c'est pas adapté à du Battle Royale, quoi. En plus, là, c'est pas les bas, enfin c'est pas comme du PVP si tu veux. Ouais. C'est pas comme quand tu fais du PVP dans Warcraft, tu as pas ta barre de sort.
Tu as pas ta barre de sort, tu as pas l'équilibrage du PVP.
Voilà, tu as trois sorts. Enfin, tu en fait tu pars avec une attaque.
Une attaque basique
et un truc de soin, et après tu vas looter aléatoirement dans le truc d'autres sorts, et tu vas avoir à la fin 5 sorts sur ta barre.
Ouais.
Donc en fait c'est équilibré à l'arrache, hein, parce que celui qui chope le sort qui va bien, il défonce tout le monde.
Voilà. Après, c'est le concept du Battle Royale. Hein. Une fois que tu connais bien les sorts, lesquels sont puissants, lesquels sont pas puissants, l'idée, c'est de se planquer jusqu'à ce que tu aies un équipement acceptable. C'est pas différent d'un Fortnite ou d'un PUBG où tu vas essayer d'éviter le combat. Je veux dire, aller attaquer un autre joueur avec le sort de base qui te donne au début, c'est l'équivalent de Fortnite d'aller attaquer un autre joueur à la pioche.
Exactement,
voilà.
Oui,
non,
c'est
il
ça.
Faut,
non, non,
il faut
tout
éviter,
à fait.
Tant que tu n'es pas équipé et que tu n'es pas un petit peu sûr de toi, il faut éviter les combats.
Alors, le problème, c'est que les hautes terres Arati, c'est plat.
Mm-hmm.
Pour te cacher, c'est non. Pas le meilleur endroit. Hein.
Voilà,
ils
ça.
Auraient pu choisir une map un peu plus...
C'est ça, parce que ce qui fait un bon Battle Royale, c'est sa map.
Et c'est la pire map.
C'est un relief intéressant, c'est un level design qui va favoriser ce genre de truc.
Là, c'est plat.
Là, il y a zéro réflexion de leur.
Il y a trois fermes et c'est tout, quoi.
Ils te mettent une map qui existe, ils te mettent à Arati et puis ils roulent, quoi.
Oui, mais en plus, c'est la pire map Arati, je veux dire.
Ah oui, c'est une plaine.
C'est une plaine et c'est tout, quoi.
Donc, se planquer là-dessus, c'est complexe.
Donc voilà, c'est nul. Merci, au revoir.
C'est un petit peu bof. Voilà, donc Plunderstorm est disponible dans World of Warcraft pour tous ceux qui ont déjà un abonnement. Pour les autres, c'est peut-être pas la peine de remettre un mois.
Non, c'est vraiment pas la peine, quoi. Enfin, si vous voulez jouer à un bon Battle Royale, allez jouer à autre chose, quoi. Parce que vraiment, là, ça n'a aucun intérêt. C'est ni du bon Warcraft, ni du bon Battle Royale. Donc,
on a une revue de test cette semaine.
Oui.
Hasard. Il y a plein de jeux qui sont sortis. Il y a plein de tests qui sont sortis.
Mm-hmm.
On va faire un petit peu dans l'ordre auquel on en a parlé tout à l'heure. On va commencer par Dragon's Dogma 2.
Mm-hmm.
Dragon's Dogma 2 qui, sur Metacritic, se retrouve avec une note de 86 dans sa version console, 90 sur sa version PC.
Ouais, c'est bien.
Alors, l'écart est intéressant, on a 4 points de plus sur la version PC pour les raisons techniques dont
tout
on parlait
fait.
Tout à l'heure. Hein, c'est quand même plus agréable à jouer sur PC que sur console. Eurogamer, Lewis Parker lui a mis à 5 sur 5, très, très emballé. Aucun autre jeu n'a suscité en moi le même sentiment de fascination et d'émerveillement. La joie de la découverte réside en chacun de nous et Dragon's Dogma 2 réussit à évoquer ce sentiment magique d'une manière qu'aucun autre jeu n'avait réussi avant lui.
D'accord.
Donc très, très emballé. Oui. Richard Wakeling, 9 sur 10 pour GameSpot. Ses problèmes de performance n'ont pas réussi à dissuader mon amour pour ce jeu. Capcom n'a pas cherché à rendre Dragon's Dogma 2 plus attrayant pour potentiellement attirer un public plus large. Au contraire, il s'en est tenu aux valeurs fondamentales du premier jeu et les a développées pour créer un jeu plus grand et meilleur qui enchante constamment par son approche de l'exploration et le frisson de l'aventure. C'est une réalisation exceptionnelle qui est tout à fait différente de tout ce qui existe et je n'hésiterai pas à la placer parmi le panthéon des meilleurs jeux de Capcom.
Ok.
Donc très positif sur Dragon's Dogma 2. Rise of the Ronin, lui, sur PS5, a une moyenne de 76, un petit peu plus basse, avec des avis un petit peu plus partagés. On a quand même des belles notes avec 4,5 sur 5 pour Léo Ferman, pour Screen Rant. Rise of the Ronin est une épopée historique immersive en monde ouvert qui ne fait pas perdre du temps aux joueurs. Et c'est également le meilleur jeu de Team Ninja depuis un certain temps. Bien qu'il ne réinvente pas complètement la roue, il semble être un pas en avant notable en termes de conception, avec un système de combat dynamique qui combine les meilleures parties de ses 3 derniers jeux.
Mmh.
Eurogamer, Alan Owen, a mis 4 sur 5. Bien qu'il soit formidable d'assister à la renaissance des jeux japonais ces dernières années, il y a quelque chose de spécial à voir un développeur japonais prendre les devants pour réclamer le jeu de samouraï AAA en monde ouvert. Surtout un développeur qui se soucie davantage d'être un jeu vidéo plutôt qu'un film de Kurosawa. C'est une pique un peu méchante pour Tsushima.
Mais excuse-moi, mais t'es un connard. Comment il s'appelle, Alan Wake, là?
Alan Wake, ouais. C'est...
Non mais attends, mais ça va pas, tu y as joué à Ghost of Tsushima, trou du cul.
Et Phil Orcho pour IGN, 7 sur 10, on respecte les opinions.
Non, je respecte pas les opinions, comment tu peux parler comme ça sur un jeu qui est sorti en plus il y a plusieurs années. Enfin, je veux dire, Ghost of Tsushima c'est un très très bon jeu, et excusez-moi, c'est un meilleur jeu que Rise of the Ronin, donc ferme ta gueule Alan Wake. Non mais j'hallucine, mais quel connard ce mec, mais meurs quoi.
Phil Orcho pour IGN lui a mis un 7 sur 10, Rise of the Ronin marie un cadre intéressant, la maîtrise de Team Ninja du combat difficile mais équitable et une conception intelligente du RPG, bien que le fouille de la carte et les butins inutiles puissent entraver son chemin.
Mmh. Ouais. En fait, si tu veux, là, ce qui m'énerve, c'est que je comprends pas pourquoi, dans une critique d'un jeu, tu vas t'en prendre à un autre jeu d'il y a 3 ans.
Ah,
quoi.
Il est pas cité, hein.
Ouais, mais ça va. Non, mais.
Et 3 ans, tu es généreuse.
C'est combien?
Le temps passe vite. Plutôt 4. Tsushima, c'est quand?
Bah, je sais pas quand c'est, mais en tout cas, c'était 100 fois plus beau que Rise of the Ronin, pardon.
Sur une génération précédente.
Sur une génération précédente. Et excuse-moi, mais un jeu vidéo, c'est aussi artistique.
Oui.
Donc, quand tu arrives à avoir un jeu qui est à la fois une représentation du travail de M. Oui. Kurosawa et un bon jeu vidéo. Tout ce qu'il y a à faire, c'est fermer sa gueule et apprécier.
On a le droit de pas être d'accord, mais...
Non. Là, je vois pas l'intérêt d'aller faire chier. Je vois pas l'intérêt, en fait. Je vois pas... À part être un gros connard aigri, je vois pas quel est l'intérêt d'aller dire un truc comme ça, quoi.
Compte à régler, hein.
Ah non, mais je veux dire, quel est l'intérêt d'aller dire un truc comme ça, à part si tu t'as pas baisé depuis 10 ans, quoi.
Alors là aussi, ça rien dans la série Attaque Inutile, excuse-moi,
là, c'était Attaque Inutile. Ah ben, excuse-moi, on est au même niveau.
C'était
hein.
Gratos. Princess Peach Showtime est également sorti cette semaine, on l'a pas testé, mais il recueille une moyenne de 74 Metacritic.
Ah oui, on n'a pas testé, ouais.
Pour
Nintendo, envoyez-nous des jeux un petit peu, en fait, ça serait bien qu'on puisse en tester de temps en temps.
Pour Destructoid, Chris Carter, pas le même, lui a mis un 8 sur 10.
Chris Carter par le même.
Pas celui de X-Files.
Pas le créateur d'X-Files.
Non. Il s'est reconverti. En test de Princess Peach. Donc Chris Carter, un 8 sur 10 pour Destructoid. J'ai été agréablement surpris par Princess Peach Showtime. Et l'imprévisibilité est une raison majeure pour laquelle il restera probablement dans ma rotation permanente des jeux Mario à l'avenir. J'aimerais voir Nintendo lui donner à plus de mascottes une vitrine comme celle-ci avec un format de variété similaire. Continuez comme ça. C'est bien parce que le continuer comme ça, tu vois, c'est... Il met 8 sur 10 au jeu, mais comme si c'était une copie de...
Oui, il a noté, c'est ça. C'est ça.
Andy Robinson pour VGC, Video Game Chronicle, 4 sur 5, pleine de personnalité, de variété, Princess Peach Showtime offre un défi définitivement orienté vers les plus jeunes, mais que les joueurs expérimentés auront du mal à ne pas être charmés. Ma phrase n'a aucun sens. Mais
non, c'est pas grave, c'est une traduction
Steve
littérale.
Watts, ouais, bah, je fais ce que je peux. Steve Watts pour GameSpot, 7 sur 10. Princess Peach Showtime est un jeu convivial et accueillant, conçu pour être facile à appréhender. Les différents niveaux sont une invitation pour les joueurs novices à explorer différents types de jeux avec une princesse charmante. 64 de moyenne pour Alone in the Dark. Pas testé non plus parce que...
Pas testé parce que...
Figurez-vous, il y a un nombre limité d'heures dans une journée.
Ouais, non, mais après, je veux dire, on est ouvert avec notre public. Hein. Pas testé parce que tu m'as dit c'est de la merde, c'est pas la peine.
Bah disons que voilà, quand on est à choisir les jeux auxquels on va jouer, il y a aussi ceux auxquels on n'a pas envie de jouer. Et vu les critiques d'Alone in the Dark, ça donne pas envie.
Ce qui est dommage parce que moi, c'est un type de jeu qui me... Enfin, les thèmes qui me plaisent, mais...
Alone in the Dark a une moyenne de 64 pour marque de l'année chez GameSpot, c'est un 4 sur 10. Avec son histoire qui défie la réalité, sa série de puzzles et son combat maladroit, Alone in the Dark est, à certains égards, plus fidèle à certains jeux d'horreur du siècle dernier qu'à leur propre remake moderne revitalisé. J'ai apprécié l'histoire du jeu, son cadre, et je me sentais intelligent lorsque je surmontais certains de ces puzzles. Mais d'autres se sont avérés si obscurs qu'ils étaient frustrants, et rien dans le combat n'atteint même un niveau que je qualifierais de convenable. C'est constamment médiocre. Ce n'est pas la première tentative de reboot d'Alone in the Dark, et ce ne sera probablement pas la dernière. Vicky Blake, 2 sur 5 pour Eurogamer. Si un jeu d'horreur d'action axé sur les énigmes à des énigmes répétitives, un combat médiocre et pas d'horreur, qu'est-ce qui reste ? Malheureusement, même un casting hollywoodien n'est pas suffisant pour dissimuler les défauts considérables d'Alone in the Dark.
Il y a un casting hollywoodien dans Alone in the Dark ?
Ouais, il y a... J'ai plus les noms...
Timothée Chalamet ?
C'est ça, il y a Timothée Chalamet dans tous les rôles. je vais te sortir...
Bah, c'est comme non, ça a, qu'ils font, non ?
Il y a Stranger Things et... Y a,
ah oui, bah, Stranger Things et Timothée Chalamet, c'est la
non, il n'y a pas Timothée Chalamet, c'était une blague. David Harbour, de Stranger Things, dans le rôle de Edward Carnby. Et Jodie Comer, qui est avec elle. Jodie Comer, tu l'as vu dans des films.
Dans Stranger
comme...
Things.
Non, pas du tout.
Non, mais je sais pas qui. Je sais que je devrais savoir qui c'est, mais.
Si, c'est la. Elle est... Non, pas... alors pas forcément. Free Guy, tu te rappelles, avec Ryan Reynolds ?
Non. Oui, enfin, si, je me rappelle, mais.
Bah, il y avait une fille aussi.
Elle rappelle plus de la fille.
Voilà, bah écoute. C'est donc elle. allez, un peu d'actu.
Donc, c'est qui Alan Wake ? C'est Eurogamer ? C'est ça ?
Pourquoi ? Tu vas lui envoyer
je vais le défoncer.
Une missive
Non, mais sérieux, c'est quoi ? C'est Eurogamer, c'est ça ?
Ouais, tout à fait.
Et Alan comment ?
Wen. Tu l'écris dans ton Death Note ?
Je l'ai écrit dans mon Death Note ! J'ai un Death Note, hein, donc...
Je sais, et il fonctionne, hein.
Non, c'est pas vrai, s'il fonctionnait, mon pauvre.
Il n'y aurait plus de pages, quoi.
Il n'y aurait plus grand monde sur la Terre.
Écrit dans la marge.
Ça serait aperçu s'il fonctionnait, t'inquiète pas.
On a le premier trailer de Actu. Hein. on sait depuis quelques années, alors je croyais depuis l'année dernière, mais j'ai un petit peu fouillé dans mes archives, ça fait 2 ans qu'on est au courant que ce projet existe. Le projet... Captain America et Black Panther chez Marvel, un jeu vidéo qui mêle ces deux personnages. On a enfin eu cette semaine le premier trailer du jeu et un titre aussi pour le jeu. Le jeu s'appelle Marvel 1943, Rise of Hydra. Mm-hmm.
Hydra, c'est les méchants.
Hydra, c'est les méchants, tout à fait. Ça se passe, comme son nom l'indique, en
1943.
C'est bien, tu as suivi. ça se passe dans un Paris occupé.
Occupé, oui.
Par les forces allemandes. Alors, c'est pratique, hein, quand un Paris occupé, ça te permet de mélanger un petit peu Hydra et les nazis. C'est un peu la même chose.
Hydra, c'est pas les nazis. Bah, ils sont moins, quand même.
Là, si. Non, mais. Ils sont moins, mais bon, voilà. Je veux dire, quand t'es Hydra, t'es nazi, quoi. C'est tellement.
Ah, bah oui.
Scénaristiquement, tellement plus facile. et donc, ça met en scène les deux personnages. Captain America, version avant congélateur. Non, mais c'est ça. Et Black Panther, mais le grand-père.
Ouais, version avant.
Version avant grand-père. Cancer. Non, mais voilà.
Désolé.
Et non, surtout, c'est. Voilà. Dans l'histoire, Black Panther, c'est un titre qui.
Oui, c'est
qui
héréditaire.
Voilà. Donc voilà, c'est le scénaristiquement, c'est le grand-père de celui que vous connaissez des films Black Panther modernes.
Mais ils en ont. Attends. D'ailleurs, ils en ont pas refait un de Black Panther
si,
après la mort
ouais,
de.
Ouais, tout à fait.
Comment il s'appelle ?
Le nom de l'acteur, je l'ai plus.
Ouais, moi non plus.
Chadwick. Non.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Mais du coup, j'ai pas capté qu'est-ce qu'ils ont fait en scénario pour.
Bah moi non plus, j'ai pas vu le film. J'ai pas vu le film, mais ils ont fait ça de façon respectueuse, a priori.
Certainement.
Bref, le jeu Marvel 1943 Rise of. Hydra, donc c'est à Paris, il y a ces deux personnages, Captain America et Black Panther, qui s'aiment pas. Hein.
Ils sont
visiblement,
pas...
il y a une certaine rivalité. Et en fait, il y a quatre personnages centraux dans le jeu, puisque Black Panther et Captain America, ils sont tous les deux venus avec un copain, un sidekick. Donc tous les quatre, ils sont.
Black Panther, il est venu avec sa maman. Hein.
C'est pas sa maman.
C'est sa maman, je suis désolée.
Non, c'est une espionne du Wakanda, c'est pas du tout sa mère.
Bah, c'est sa maman.
Ok. Donc, on a des images du jeu, enfin des images... Alors, c'est un trailer très cinématique, mais on nous promet que ce trailer cinématique a été généré en temps réel avec, avec le moteur du jeu. C'est d'ailleurs le jeu, ce trailer a été révélé pendant un showcase Unreal pour démontrer les capacités du moteur Unreal Engine. Donc voilà, c'est plutôt joli.
Ah oui, oui, c'est très
joli,
beau. Ouais.
C'est très bien animé, les visages, les dialogues, les trucs comme ça, c'est très, très cinématique. Après, niveau gameplay, on ne sait pas trop où on va.
Ouais, mais en plus, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a une rivalité entre les deux, mais ils se battent contre Hydra, alors je sais pas.
Ils se battent contre.
C'est pas clair, en fait.
Mais aussi l'un contre. Bah, disons qu'ils sont rivaux avec des objectifs communs. Bon, voilà, ça va être le scénario. Hein.
Bah, parlez-vous, quoi.
De toute façon, ça va être un jeu qui va être très, très scénarisé, très narratif, très, très mis en scène, très film interactif.
C'est super.
Le studio, c'est Skydance, qui est avant tout un studio de cinéma, qui fait des films et des séries télé. À la production du jeu, la productrice, c'est Amy Hennig, qu'on connaît par exemple pour des jeux comme Uncharted 2. Donc voilà, c'est des gens qui sont habitués à faire des trucs très narratifs, et ça va être ça, ça va être ce type de jeu.
Oui, oui, mais bon, c'est très bien. Hein.
C'est très bien, ça a l'air très cool. Faut pas être pressé, ça, c'est quelque chose qui arrive quelque part en 2025. Mm-hmm. C'est pas pour cette année, donc on aura le temps d'avoir des nouvelles de Marvel 1943. Final Fantasy XIV Dawn Trail a une date de sortie que j'ai perdu le
juillet, je crois.
Alors la date de sortie officielle, c'est le 2 juillet 2024. Mm-hmm. Il y a un accès anticipé le 28 juin. Je ne sais pas comment on accède à cet accès anticipé, mais voilà. Bref, à partir du 28 juin...
A priori, en payant plus cher.
C'est souvent ça. Hein. C'est souvent ça. Non, mais je crois que c'est... En fait, tu sais, c'est comme ils font souvent sur les MMO, c'est-à-dire qu'à partir du 28 juin, tu as le patch qui fait passer le jeu à Dawn Trail, mais sans que le nouveau contenu soit ouvert, le nouveau contenu s'ouvre une semaine plus tard.
D'accord.
Voilà, en gros. Alors, 28 juin, cette date, c'est pas au hasard. Hein. Naoki Yoshida, producteur, a expliqué que... bon, on a bien noté que le DLC d'Elden Ring sortait le 21 juin. On vous laisse une semaine. et après, on sort à FF14. Voilà, donc ils ont... Alors, ils ont dévoilé ça à la PAX de Boston, là, ce week-end, avec un nouveau trailer. C'est très joli, ça a l'air... Encore une fois, d'être une vibe assez différente de tout ce que Final Fantasy XIV a fait. Mais c'est pour.
Ils sont à la plage, là, non ? Ils sont en maillot déjà.
Voilà, ils sont à Costa del Sol.
Ah, okay.
Ils sont bien, ils sont tranquilles en maillot. Et ça sort le 2 juillet, tu vois, c'est vraiment le jeu des vacances d'été. Mais c'est aussi pour lancer un nouveau cycle scénaristique, maintenant qu'ils ont terminé tout ce qui.
Oui, après, j'espère qu'il va se passer quelque chose. Quoi.
Il va sans doute se passer quelque chose. On leur fait confiance. Scénaristiquement, FF14 a rarement déçu. Donc on va voir ce que ça donne. Petit détail intéressant, Yoshida a fait remarquer qu'il y avait dans FF14 Dawn Trail énormément de références à Final Fantasy IX. Dans les bonus de précommande, il y a des pets ou des trucs comme ça qui sont des références à Final Fantasy IX. Il y a plein de références à FF9 partout. Et ces références sont là, je cite, pour une raison secrète.
Ah! Donc remake de FF9 ?
Ouais, complètement. Non, c'est une très bonne analyse. On a un remake de FF9 qui est sur les rails, c'est évident.
D'accord.
C'est même une rumeur qui est persistante depuis des années. Vous attendez pas un remake de l'ampleur de FF7, mais voilà, une remise au goût du jour de FF9, c'est quelque chose que sans doute on va voir au moins dévoilé en 2024. On reste sur Final Fantasy 7, on a 16, pardon. On se perd dans les numéros.
Bah, ils font le DLC à Costa del Sol.
Non, alors,
avec Clive et Courgette à la plage.
C'est un peu ça. Alors attends, on a parlé de FF7, on a parlé de FF9, on a parlé de FF14, FF16, The Rising Tide, le DLC, le nouveau DLC de FF16 qui va apporter entre autres le Léviathan.
Oui, c'est vrai.
À une date.
T'avais bloqué sur ça ? Dès le début, tu m'as dit putain.
J'étais scandalisé, mais c'est mon préféré.
Scandalisé.
C'est mon préféré.
Mais ils ont mis tous les machins sauf le Léviathan. Il est où ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ?
Mais c'est mon préféré. Ils sont dans la foutre de Ifrit.
C'est vrai que Ifrit, il est un peu pourri, hein, on est d'accord.
18 avril pour le DLC de. de Final Fantasy VII, The Rising Tide. Donc c'est quelque chose qui s'inclut un petit peu dans le scénario du jeu, puisque ça se passe avant la fin.
Et oui.
Pas de spoiler.
J'ai pas spoilé. J'ai pas spoilé.
Et voilà, donc avec plein de nouveaux...
C'est un DLC où Courgette, elle fait la vaisselle ou pas ?
Il faudra jouer pour le découvrir, mais il y a plein de choses.
Pendant que Clive fait ses trucs, pendant ce temps, à la maison.
Exactement. Ce serait bien dans la vibe du scénario de FF16, clairement. Non, avec plein de fonctionnalités en plus incroyables, comme la possibilité de retourner automatiquement pour rendre tes quêtes auprès du donneur de quêtes.
Ah, c'est incroyable, ça.
Voilà, des icônes pour noter les personnages importants sur la carte. Trop cool. Voilà, bon, ce genre de truc complètement indispensable. Voilà, donc vous pourrez refaire FF16 avec ce DLC dès le 18 avril.
Notez-le. Ah, t'es obligé de le refaire en plus ?
Alors je sais pas comment ils vont faire pour accéder au DLC, comme justement c'est avant la fin.
C'est avant la fin, ouais.
Mais en même temps, je pense que... Si t'as une sauvegarde avant la fin, ou s'il te file une sauvegarde avant la fin, bah, y a possibilité de finalement pas aller faire la fin et faire le DLC à la place. À mon avis, c'est faisable.
J'ai rien compris.
Prenons des nouvelles d'Overwatch 2.
Ah ! Ils sont à Costa del Sol aussi.
Ils sont à Costa del Sol, Overwatch 2. Ils sont à la plage. Ils arrivent à leur saison 10.
Combien ?
10. Non, mais les saisons d'Overwatch, ça passe plus vite que les saisons réelles. Hein. Il faut...
c'est ça.
Mais bon, le temps passe vite. Saison 10, et 10 saisons, c'est le temps qu'il aura fallu pour réaliser leur connerie, puisque à partir de la saison 10, ça y est, les nouveaux héros ne seront plus payants.
C'est pas vrai.
Et ouais, ça y est, c'est nouveaux héros pour tout le monde. On rappelle jusqu'à maintenant, pas dans chaque Battle Pass, mais 1 sur 2, bref, régulièrement, il y avait des nouveaux héros. Ouais, 1 sur 2. Il y avait des nouveaux héros qui sortaient avec les Battle Pass d'Overwatch 2. Et tu avais soit la possibilité d'acheter le Battle Pass payant, ce qui te permet de débloquer immédiatement ces nouveaux héros. Soit il fallait progresser jusqu'à un niveau très avancé du Battle Pass gratuit pour débloquer le héros. Donc les nouveaux héros étaient débloqués soit en payant, soit par progression. Mais si tu ratais le Battle Pass en question...
Tu l'avais dans l'os, tu n'avais pas le héros.
Voilà, maintenant c'est terminé. À partir de la saison 10, les nouveaux héros qui vont sortir au même rythme qu'avant seront gratuits, disponibles pour tout le monde. Okay. Rétroactivement, hein, tous les héros qui sont sortis...
Voilà, c'est ça, j'allais dire, les anciens sont dispo.
Tous les anciens héros qui sont sortis depuis la sortie de Overwatch 2 seront accessibles à tout le monde.
Et du coup, pour ceux qui ont payé pour les avoir, ils font quoi ? Ils les remboursent ?
Alors, ils n'ont pas payé pour les avoir.
Et puisque, voilà, tu la connais l'arnaque ? Tu la connais l'arnaque, là.
Ils ont payé pour avoir un Battle Pass qui avait de multiples récompenses, effectivement. Et l'avantage de ce Battle Pass, c'était de débloquer le truc avant tout le monde, et ça, ils l'ont eu, effectivement, avant tout le monde.
Donc, ma question.
Donc, tous ces personnages.
Ma question qui rejoint un petit peu les questions que j'ai sur tout ce genre de pratiques, qui sont un petit peu à la limite de l'arnaque. Est-ce que c'est fait exprès ? Pour niquer les gens et les forcer à acheter les Battle Pass pour avoir les héros jusqu'au moment où ils se disent « Bon, là, on est allé trop loin, on
Alors,
fait plus.
Si ta question, c'est est-ce que
c'était dans l'idée de niquer les gens et ensuite les passer gratos pour leur avoir raqué du fric avant, quoi ?
Absolument, oui. Non, c'est-à-dire que... Quand ils font ce type de progression et ce type de monétisation, ils ont des plans B, ils ont des plans, des sorties, des issues de secours, des trucs comme ça, et ils savent très bien que si jamais les chiffres ne sont plus rentables, il faut passer sur une autre stratégie, quoi. Donc oui.
Non, mais tu te rends compte, là, les gens qui ont acheté les Battle Pass pour avoir les trucs, et maintenant c'est gratuit ?
Ah ça ! Les gens qui ont acheté les Battle Pass, ils ont acheté les Battle Pass pour avoir le héros plus tôt. Et ils ont eu le héros plus tôt. Ils savaient pourquoi ils ont payé et ils ont eu ce pourquoi ils ont payé. Les autres, il y a beaucoup de gens qui ont fait les Battle Pass gratuits, ils ont débloqué le héros de cette façon-là aussi. Tu vois, on retire pas ce truc aux gens. Et ce qu'il y a dans le Battle Pass, c'est des options cosmétiques tout le long du Battle Pass. Et ça reste exclusif. Et c'est ça vraiment qu'ils ont payé. Donc il n'y a pas vraiment d'arnaque. Alors je comprends ta position.
Il n'y a pas vraiment d'arnaque. C'est quand même. On peut se poser la question.
Et de base, cette monétisation autour d'un Battle Pass d'Overwatch 2, c'est quelque chose qui est critiqué par tous les joueurs d'Overwatch 2. Ça fait partie des nombreux problèmes. Hein. Les gens veulent retourner au système précédent de lootbox, qui n'était pas forcément mieux, mais qui était un petit peu mieux.
Je veux des lootbox.
Mais au moins, tu avais des skins et des trucs comme
c'était
ça.
Rigolo,
parce
les lootbox.
Mais oui, parce que tu gagnais des lootbox gratuitement et tu les ouvrais.
Mais oui, c'était rigolo.
Tu avais cette loterie de pouvoir choper des skins intéressants. Bien, là, voilà. Donc voilà. Mais c'est quand même une amélioration du système que d'avoir ces héros disponibles pour tout le monde tout de suite. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça commence dès le...
Alors, c'est plutôt cool, mais ça aurait dû être mis en place tout de suite et pas niquer les gens au début.
Tout à fait. Tout à fait.
Parce que là, ils se sont fait pas mal de pognon sur le dos de gens qui, maintenant, excuse-moi, mais ils devraient juste les rembourser.
Overwatch
quoi.
2 est un jeu qui ne fonctionne pas en ce moment. Hein. C'est, ils sont en train de revoir complètement leur monétisation. L'autre gros changement, d'après des informations récoltées par Bloomberg, c'est que tous les projets de map PvE sont supprimés.
Encore ?
Encore. Et oui, ils arrivent à annuler le PvE deux fois d'affilée.
Putain, ils sont bons les mecs, quoi.
Rappel des épisodes précédents. Ouais. On va revenir bien en arrière.
Alors que
Overwatch 2
à
a
la base,
été
Overwatch
annoncé...
2, c'était ça, en fait. Hein.
Overwatch 2 a été annoncé à l'origine comme Overwatch 1 plus un mode PvE qui allait étoffer un petit peu l'histoire du truc et qui allait permettre de jouer, d'avoir des trucs PvE, des missions qui avaient l'air vachement intéressantes. Ils ont sorti finalement Overwatch 2 sans ce mode PvE en disant ça arrive plus tard. Plus tard, ils ont dit que ce mode PvE était complètement supprimé parce qu'ils n'arrivaient pas à le faire marcher, c'est trop dur, à la place, on va prendre les maps qu'on a développées pour le mode PvE et on va en faire des petites expériences plutôt que d'avoir un gros mode PvE avec un truc qui va relier toutes ces maps, toutes ces missions. On va sortir les missions indépendamment les unes après les autres, mais ça va être payant.
Donc
ils ont sorti les premières missions il y a l'année dernière payantes. Personne n'a payé.
Doit bien y avoir 4 ou 5 clampins qui ont payé. Et là encore une fois, ils se sont fait arnaquer.
Non, parce qu'ils ont eu les maps pour lesquelles ils ont payé. Donc, étant donné qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui ont acheté ces maps, ils ont déterminé que c'était pas rentable. Et donc les maps suivantes, ils arrêtent le développement et elles ne sortiront jamais.
Oui, mais comment tu peux faire payer des trucs qui, normalement, étaient censés être dans ton jeu ?
Alors, tu fais payer des trucs qui, normalement, étaient censés être dans ton jeu payant. Overwatch 2 devait être un jeu payant, comme Overwatch 1 était un jeu payant. Quand ils ont sorti Overwatch 2 avec uniquement le multijoueur sans le solo, ils l'ont aussi sorti en free-to-play.
Mais encore heureux !
Mais oui, mais voilà. Mais je réponds à ta question. Tu me demandes comment ils... Comme ça, en le passant payant.
Oui, mais je veux dire,
en
quand ils ont commencé...
En le payant et en disant, voilà, tu le paierais plus tard quand le PvE
sera dispo. Le problème que j'ai là, c'est que quand ils commencent à sortir des maps PvE, ils savent que si ça va pas marcher, ils vont tout annuler.
Bah, bien sûr.
Alors qu'ils font payer les gens pour ça.
Mais ils ont fait payer les gens
et
pour les maps.
Mais oui, mais les gens qui payent pour la map, ils les veulent toutes. Ils veulent
ouais,
pas
ils
s'arrêter.
Ils auraient dû repayer.
Oui, mais enfin, tu comprends ce que je veux dire quand même. C'est alléchant sur un truc qui, en fait, ne va pas exister, va être annulé.
On est d'accord.
C'est de, pour moi, philosophiquement en tout cas, c'est clairement de l'arnaque. Pardon, hein. Voilà. Merci, bravo Overwatch.
Mais légalement, tu vas avoir du mal à défendre. Parce que,
voilà. Ah non, mais légalement, je m'en fous, hein, mais... Voilà. Philosophiquement, c'est vraiment pas beau, quoi.
En tout cas, si vous attendiez ces nouvelles... si vous faites partie de ceux qui attendaient ces nouvelles maps... PVE, elles n'arriveront pas, c'est un projet...
Donc
un
du
projet
coup, Overwatch 2, c'était même pas la peine de le sortir, quoi.
On est assez d'accord. Écoute, c'est pas la fête non plus chez Bungie.
Putain, et eux aussi, non.
Apparemment, en interne, le développement de Marathon est...
Encore ? C'est Marathon, la merde ?
Ouais, bah c'est tout la merde, hein, parce que Destiny, ça marche pas trop.
Partout.
Destiny, c'est très compliqué en ce moment. Ouais. Et le sauveur de Destiny, donc le prochain projet de Bungie, Marathon, ça a l'air d'être compliqué également. Il y a complètement un remplacement de leadership créatif. Et la personne qui était à la tête du projet Marathon a été remplacée.
D'accord, ça présage que des bonnes choses.
Voilà. C'était Christopher Barrett, aucun lien, qui était jusque-là à la tête du projet. Projet qui est décrit en principe comme un extraction shooter PVP, dans un univers de science-fiction. Donc, il n'est plus responsable du projet. Il est remplacé par Joe Ziegler. Joe Ziegler, lui, il est connu pour... Il vient de chez Riot. C'est lui qui était responsable de Valorant.
Ah bon, mais il est parti de Valorant pour aller faire ça ?
Il est parti de Valorant.
Parce que Valorant, par contre, je crois que ça marche, non ?
Ouais, mais Valorant, ça y est, c'est sur les rails, je suis pas sûr qu'il y ait
besoin. Oui, ils ont plus besoin d'un...
Exactement.
Enfin, si, sur le long terme, quand même.
Voilà, après, bon, combien il est payé, je sais pas, tu vois, c'était sans doute une évolution de carrière intéressante pour lui.
Sauf si ça marche pas.
Ah bah, ça, on verra. On verra. Marathon, et on rappelle, repoussé jusqu'à au moins 2025. Je pense pas que Marathon sorte en 2025, mais...
Je pense pas que Marathon sorte tout court, malheureusement.
Il est possible que tu aies raison.
Et Bungie, ils sont toujours indépendants ou...
Non, ils sont... c'est Sony.
Ah, c'est Sony, oui, voilà, c'est ça. C'est... Non, mais j'arrive plus à suivre avec eux,
alors,
excuse-moi.
Ouais, non, mais c'est difficile à suivre, et c'est plus compliqué que ça, c'est que non seulement ils ont été rachetés par Sony, ils n'ont pas été rachetés par PlayStation.
C'est ça.
Bungie n'est pas un studio PlayStation.
Non, c'est un studio Sony.
Pourquoi ? Je sais pas. c'est très bizarre. Mais voilà, ils ont été rachetés par Sony. Sony qui regrette un petit peu son achat, hein, puisque récemment en interview, Sony a déclaré que Bungie ferait mieux de prendre un petit peu leurs responsabilités concernant les retards de leur jeu.
Bonne ambiance.
Bonne ambiance. Bonne ambiance. Tout le monde est très content de travailler avec tout le monde. GTA 6, Grand Theft Auto 6, prévu pour 2025. 2025, c'est une fenêtre de sortie plutôt optimiste, visiblement, selon des sources anonymes qui auraient communiqué avec Kotaku. Le développement de GTA 6 aurait pris du retard en interne, hein, puisque bon, le trailer indiquait 2025, mais l'objectif interne, c'était printemps 2025.
D'accord.
Pour GTA 6, il semblerait, selon ces sources anonymes, qu'une sortie à l'automne 2025 serait plus réaliste, avec possibilité très réelle que ça glisse encore jusqu'à 2026. Pour un jeu de cette ampleur, je ne suis absolument pas surpris.
Non, parce qu'on commence à bien avancer dans 2024, là. Hein.
Ouais, voilà, c'est ça.
Donc, bon...
Bon, donc voilà, si vous attendiez GTA 6, ça risque... Et je pense qu'ils vont, surtout pour un jeu comme ça...
Ils ont intérêt à le sortir dans de bonnes conditions.
Il faut que ça soit impeccable quand ça sort, et ils ont les moyens de faire en sorte que ça soit impeccable quand ça sort. Je veux dire, c'est pas comme si GTA 5 rapportait plus d'argent.
Il
est toujours dans le top 10 des ventes de partout, donc ça va. Ça va, le robinet à sous, il tourne bien. Stardew Valley... Stardew Valley a battu tous ses records Steam avec la sortie du patch 1.6, nouvelle mise à jour pour Stardew Valley qui rajoute pas mal de fonctionnalités au jeu. Les joueurs sont revenus dans la vallée.
Il est gratuit le patch, on est d'accord.
Oui, c'est une mise à jour gratuite. Stardew Valley 1.6, c'est gratos, tu patches ton jeu et tu joues avec plein de nouveautés.
C'est ça, jouer à Stardew Valley et à No Man's Sky.
Ouais,
et
voilà.
Vous payerez moins de jeux vidéo.
Quoique, j'ai No Man's Sky, j'ai un petit peu mauvaise d'avoir raté le Battle Pass où il y avait le vaisseau de Mass Effect.
Il y a des Battle Pass dans No Man's Sky ?
Il y a des, alors ils appellent ça des expéditions. Alors c'est pas payant. C'est pas payant, mais c'est des saisons avec des trucs à faire, avec des machins, et ça... Et
voilà. Ah, ils jouent quand même sur le...
Sur le FOMO.
Le FOMO.
Et je me suis fait FOMOter le Normandie, le vaisseau de Mass Effect. Je suis dégoûté. Stardew Valley, le précédent record de joueurs simultanés sur Steam datait de janvier 2021, avec 95 000 joueurs simultanés. Le jour de la sortie du patch 1.6, ce record est monté à 146 000.
Ah, c'est pas mal.
Le jeu fait aussi partie cette semaine des 10 jeux les plus vendus sur Steam. Donc ceux qui n'avaient pas Stardew Valley se sont jetés dessus. On rappelle que ce patch 1.6, il est disponible sur PC uniquement pour l'instant, donc sur Steam, mais également sur la version Game Pass PC. N'hésitez pas si vous voulez vous replonger là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans ce patch ? Il y a plein de petites nouveautés parsemées sur tout le jeu. Il y a du contenu haut niveau, entre guillemets, pour ceux qui ont déjà une ferme bien avancée, bien performante. Mais il y a aussi des trucs qui sont rajoutés sur des petits événements le long de l'année, que ça soit dans les relations avec les autres villageois, des trucs comme ça, donc un nouveau type de ferme. Donc ça peut être intéressant aussi de recommencer une nouvelle ferme, ce que j'ai fait moi de mon côté. Voilà, c'est pas grand chose. Alors j'ai pas encore vu grand chose de nouveau, quoique j'ai cette nouvelle, je suis sur ce nouvel modèle de ferme qui est plus orienté élevage que agriculture. Tu commences avec deux poulets et un poulailler, donc c'est rigolo. Il y a un marchand de livres qui est passé en ville, qui n'existait pas avant.
D'accord.
Donc ça avait l'air très cool. Donc j'ai été voir le marchand de livres et il vendait des livres qui te permettent de faire des améliorations définitives de ton personnage, marcher plus vite, gagner des niveaux dans en minage, en agriculture, en des trucs comme ça. Les livres étaient hors de prix, donc je me suis cassé.
Si tu viens de commencer, c'était forcément hors de prix.
Mais c'est ça, il vient après une semaine de jeu, je veux dire, tu veux mon livre pour marcher plus vite, il coûte 150 000 pièces d'or, j'en ai 12. Désolé.
C'est ça.
J'ai tout dépensé avant de venir pour acheter une graine de patate, donc pour l'instant non, prochaine fois peut-être. Pass of Exile 2 n'est toujours pas sorti, il est toujours pas en bêta. La bêta aurait dû sortir cet été, mais elle est repoussée à fin 2024, a priori.
D'accord.
Voilà, ils ont posté un message pour s'excuser. La bêta fermée devait commencer le 7 juin 2024. Et ils étaient persuadés de pouvoir atteindre cette date annoncée, mais malheureusement, même si le contenu est plus ou moins prêt, c'est le gameplay qui n'est pas encore à la hauteur de ce qu'ils auraient aimé proposer aux joueurs. Donc ils se donnent un petit peu plus de temps et cette bêta aura davantage lieu vers la fin de l'année.
Ok, bah écoute, on verra. De toute façon, c'est dans quelques temps quand même.
Voilà, c'est dans quelques temps, mais ceux qui sont un petit peu fatigués par Diablo 4, il n'y a pas encore d'alternative.
Ah bah, il faut changer de type de jeu.
Par contre, ceux qui n'ont pas encore testé Diablo 4, rappelez-vous, il arrive sur le Game Pass cette semaine.
Ah, c'est vrai.
Cool. Et ouais. World of Warcraft, standalone, Battle Royale, ça, on en a déjà parlé. Très bien.
Non, très de la merde, on a dit.
Non, mais très bien qu'on en ait parlé, tu vois, on n'a pas besoin.
Très bien qu'on en ait parlé, mais c'est de la merde. Pardon.
Assassin's Creed Jade.
Il paraît que Alan Wake, il a bien aimé Plunderstorm.
Assassin's Creed Jade.
Voilà.
Interro-surprise, qu'est-ce que c'est ?
Non, c'est pas celui qui a l'air bien.
Non, définitivement pas, non.
Non, c'est pas celui qui a l'air bien, c'est un espèce de mobile pourri, c'est ça ?
Alors, pourri, c'est gratos, mais c'est ça.
C'est un jeu mobile.
Assassin's Creed Jade est un jeu. Est un Assassin's Creed sur mobile.
Ouais.
Pas
forcément pourri.
Pas forcément pourri.
C'est
non, voilà. C'est pas juste un jeu mobile dans l'univers d'Assassin's Creed. C'est un Assassin's Creed sur mobile. Ça se joue pareil. C'est le même type de jeu. Dans la Chine ancienne, ça a l'air cool comme environnement.
Non, parce que je dis que c'est pourri, mais en fait, c'est pas forcément pourri, parce que moi,
ça a l'air cool.
Avant les Assassin's Creed que j'aime pas trop avec les bâtiments, machin, là, il y a très très longtemps, avant qu'on se rencontre, ils avaient sorti un Assassin's Creed sur mobile qui était pas mal.
Oui, mais tu vois, c'est pas ces Assassin's Creed-là dont on parle. Là, c'est un vrai jeu Assassin's Creed où tu joues ton personnage, tu escalades des trucs.
C'est ce que je dis, c'était ça. C'était un vrai jeu Assassin's Creed.
D'accord.
Sur mobile.
D'accord. Là, c'est un petit peu ça. Ça se passe dans la Chine ancienne. Le jeu est repoussé à 2025.
Oh.
C'est ça la news. Ça devait sortir cette année, mais Tencent, le développeur chinois, décide de se concentrer sur des licences un petit peu plus...
chinoises.
Mais c'est ça, en fait. Voilà. Des licences un petit peu plus sûres sur le développement et donc des trucs qui sont un peu plus orientés vers un public asiatique. Vendre Assassin's Creed à un public asiatique, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Assassin's Creed, c'est une grosse licence pour l'Occident.
Surtout un Assassin's Creed qui se passe en Chine, mais qui est fait par des Occidentaux.
Non, qui est fait par des Chinois. Le développeur, c'est Tencent. Hein.
Ah, c'est des Chinois ?
Ouais, ouais,
enfin non, c'est eux qui le développent. C'est pas... Attends, j'ai rien compris. Ubisoft qui le développe et qui le fait éditer par Tencent.
Non, non, c'est Tencent qui développe sous licence Assassin's Creed, sous licence Ubisoft. Mais le développeur, c'est Tencent. Tencent qui est très occupé par plein de jeux mobiles. Hein, on en a parlé il y a quelques semaines. Tencent, ils sont aussi en train de faire un jeu mobile dans l'univers d'Elden Ring, par exemple. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais... Voilà, Tencent se concentre sur faire progresser leur propre succès qui s'appelle Dreamstar, qui est un jeu mobile qui a beaucoup de succès en Chine. Et il y a des tonnes, il y a des, je cite, des centaines de membres de l'équipe de développement d'Assassin's Creed Jade qui ont été transférés sur l'équipe de Dreamstar.
Mais dans ces cas-là, ils sont pas contents, Ubisoft, quand même.
Ubisoft, oui, bah, j'imagine qu'il y a eu des discussions, hein, mais à Ubisoft, ils ont vendu leur licence. La licence, elle est vendue, ça y est, hein, ils ont eu leur chèque. Hein.
Ah, donc là, il n'y a aucune récupération d'argent d'Ubisoft. Ils ont juste vendu Assassin's Creed à Tencent.
Je n'ai pas lu le contrat, hein, et personne ne lit le contrat, mais il y a sans doute effectivement une partie des ventes et des bénéfices qui est aussi destinée à Ubisoft. Mais le gros de l'argent, c'est la vente de la licence, ouais.
Ils sont cons, quoi. Pourquoi ils n'ont pas fait eux-mêmes le jeu, au lieu de le vendre à Tencent?
Parce qu'ils ont déjà 65 autres Assassin's Creed en développement.
Oui, mais ils le font pas, les
ils
autres.
Sont, et ils n'ont pas trop l'expertise pour les jeux mobiles. Voilà. Si tu vas voir des boîtes comme Tencent, qui, eux, ont effectivement une grosse expertise de jeux mobiles et qui sont sortis carton sur carton mobile, ouais, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire de la licence. Ouais.
Ben, rien, visiblement.
Rien, visiblement. Baldur's Gate 3, j'espère que vous avez aimé Baldur's Gate 3, puisque Larian ne prévoit pas de faire de Baldur's Gate 4.
Eux, ils sont. Ça y est, ils partent aux Bahamas. Hein,
ils prévoient pas non plus de faire de DLC pour Baldur's Gate 3, et ils ne prévoient pas de faire quoi que ce soit avec Donjons et Dragons à l'avenir.
Mais ils arrêtent de bosser, c'est ça? Ils prennent leur retraite?
Non, non, ils ont un nouveau projet, ils ont un nouveau jeu, mais voilà. Ils disent, voilà, on laisse la licence Donjons & Dragons entre les mains de Wizards of the Coast, et ils repartent sur des projets à eux, sur des licences à eux, et sur quelque chose qui, a priori, serait très différent en termes d'ambiance et en termes de style que Baldur's Gate 3. Mmh. Donc voilà, leur prochain projet n'est pas du Donjons et Dragons. C'est ça qu'il faut retenir.
Mais après, de toute façon, la licence Donjons et Dragons, ça leur coûte de l'argent, non?
Oui, aussi, oui.
Voilà, ça va leur coûter moins. C'est un projet qui va leur coûter moins cher, quand même.
Exactement, surtout que maintenant, ils se sont fait un nom reconnu.
Exactement.
Ils ont la possibilité de faire un petit peu ce qu'ils veulent. Mmh. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent Baldur's Gate 3. Ils continuent à mettre à jour et à patcher et à ajuster Baldur's Gate 3. Hein, le soutien continue. Mais simplement, leur prochain projet ne sera pas Baldur's Gate 4, clairement. On continue à avancer un petit peu rapidement. J'ai beaucoup d'actu. Resident Evil 9 sera un jeu open world, d'après un leaker. Voilà, alors c'est l'évolution de la licence, j'imagine. Voilà, c'est un leaker, c'est un mec qui s'appelle Dusk Golem. Pourquoi on accorde de l'importance à ce monsieur?
Bah oui.
Parce que il a tout juste, à chaque fois qu'il parle de Capcom depuis 5 ans, tout ce qu'il raconte, il tape dans le mille. Donc il a clairement des sources. Il avait, que ça soit, mais, et surtout sur Resident Evil, hein, il avait annoncé avant tout le monde Resident Evil Village, le remake de Resident Evil 4, voilà. Mm-hmm. Il a clairement ses entrées, donc on fait confiance à ce qu'il raconte. Voilà, donc a priori, ça sera
on verra, pourquoi pas.
Ouais, on verra, pourquoi pas. Hein. Du coup, est-ce que Dragon's Dogma 2 a un petit peu défriché l'open world pour Capcom?
Je sais pas si on perd pas un peu de l'ambiance de Resident Evil sur un open world.
Voilà,
même.
Après, faut voir quel type de jeu c'est. C'est vrai que le côté oppressant et claustrophobe de certains environnements faisait Resident Evil. Monde ouvert, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? C'est pas forcément des vertes prairies à perte de vue.
Non, pas forcément.
Ça peut être simplement un environnement plus large qu'habituellement. Hein. Mm-hmm.
Faut voir.
À voir. Je pense qu'on va commencer à entendre parler de Resident Evil 9 relativement bientôt, sans doute cette année.
D'accord.
Mais on en saura plus à ce moment-là. Hein. Mais c'est vrai que voilà, Capcom se dirige vraiment sur plus d'open world avec Dragon's Dogma 2. L'année prochaine, leur gros titre de 2025, ça va être Monster Hunter Wild, qui va être un open world également. Donc il va y avoir beaucoup de ça.
Oui, c'est vrai qu'ils ont... Bon.
Petite pensée pour Shinji Mikami, créateur de Resident Evil, l'original, qui a récemment quitté le studio qu'il avait monté. Je me rappelle plus du nom de son studio. Tango. Tango Gameworks, hein, qui a sorti Ghostwire Tokyo, qui a sorti Hi-Fi Rush et qui avait sorti...
Oui, enfin, récemment...
Récemment. Non, Mikami, là, l'année dernière, quoi.
Voilà.
Voilà.
Il avait... Récemment, c'était pas la semaine dernière, quoi.
Non, Shinji Mikami a quitté Tango l'année dernière. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait entre-temps ? Eh ben, il a monté un nouveau studio, visiblement. Ça a été annoncé. Le studio s'appelle Kamui Inc. Et on sait pas sur quoi il travaille, mais voilà.
Okay.
Nouveau studio pour Shinji Mikami, donc on peut s'attendre à ce qu'il fasse des nouveaux jeux, et en fait il n'était pas du tout parti à la retraite.
Oui, voilà, parce qu'il avait annoncé sa retraite.
Ça, ça ressemblait à une retraite, hein, mais non, c'est pas une retraite. Date de sortie pour Steel Wakes the Deep. Rappelle-toi, c'est ce jeu sur une plateforme pétrolière
qui a l'air
bien
sympa,
flippant, ça a l'air très cool, voilà, c'est pour ça que j'en parle. On a une date de sortie fixée au 18 juin.
D'accord.
Ça, sur PC, PlayStation 5
ça.
Et Série X, hein, voilà, c'est The Chinese Room, hein, c'est le développeur qui est connu pour Amnesia, pour Everybody's Gone to the Rapture, hein, ce genre de jeu. Là, ils sont dans un truc également très horreur. Le contexte, on est sur une plateforme pétrolière dans la mer d'Écosse en 1970. Donc une ambiance assez unique, assez originale. Les trailers ont l'air vraiment, vraiment cool. Et le jeu final, donc 18 juin, marquez vos calendriers. Valve lance sur Steam Steam Families. Steam Families, c'est la possibilité de faire...
Je le sens pas.
Non, c'est bien, c'est cool.
Je sens que
c'est une nouvelle fonctionnalité. Non, c'est une nouvelle fonctionnalité pour rassembler sous un même compte différents membres de la famille. Donc, je peux mettre ton compte sous le mien.
C'est mieux, ça, non ?
C'est cool.
Parce que
voilà.
Avant, c'était chiant, c'est ça ?
C'était chiant. En fait, voilà, ça existe déjà. Il y avait un système de partage de comptes, mais qui était très, très, alors compliqué à configurer déjà. Et il fallait par exemple si moi je jouais sur un jeu Steam n'importe lequel, toi tu pouvais pas. Là c'est déjà plus facile à mettre en place, ça peut rassembler jusqu'à 6 membres de la famille, les jeux sont interpartagés, donc tu as automatiquement mes jeux, j'ai automatiquement les tiens. Et jouer à un jeu sur un compte Steam, ça ne bloque pas la bibliothèque pour le reste de la famille.
D'accord.
Ça ne bloque que le jeu qui est en train d'être joué.
J'ai pas compris.
C'est-à-dire que actuellement, si je joue à Baldur's Gate 3 sur mon compte Steam, toi, de ton côté, tu ne peux jouer à aucun de mes jeux.
Ah bon ?
Aucun.
Ah, je savais pas ça.
Toute ma bibliothèque est fermée tant que je joue à n'importe quel de mes jeux Steam.
Ah, j'avais pas compris.
Là, ça ouvre un petit peu plus. Si je suis en train de jouer à Baldur's Gate 3, tu ne peux pas jouer en même temps que moi à Baldur's Gate 3. Tu peux jouer à tous les autres jeux de ma bibliothèque.
Bon, ça reste de la merde, en fait.
C'est quand même beaucoup mieux. Mais non, tu peux pas acheter...
Tu peux pas jouer au même jeu en même temps.
Tu peux pas acheter un jeu pour 6 personnes. Non, ça n'existe pas. Si tu veux vraiment jouer au même jeu, voire au même jeu ensemble, chacun doit avoir son exemplaire. Ça détend un petit
peu
les règles,
pire.
C'est moins pire.
C'est moins pire qu'avant.
Mais c'est cool. Ça serait cool qu'il y ait officiellement le même genre de truc sur PlayStation, sur Switch, sur Xbox. Mais voilà, sur Steam, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous, de notre côté, pour la Belle Gamer, nous annonçons un nouveau palier Patreon qui vous permet de rentrer dans ma famille et récupérer toute
ça.
Ma bibliothèque Steam. Pour,
exactement, pour 2000 euros par mois.
Pour un abonnement tout à fait raisonnable. voilà pour l'actu. Dernière petite news.
Oui, parce que du coup, dans la famille, il reste 4 places. Hein.
Il reste 4 places, hein, et il n'est pas question que je mette les vrais membres de ma famille. Donc,
Bah non, donc 4 places aux enchères. Allez.
Voilà, contactez-moi.
Et par contre, la bibliothèque de Ben sur Steam, putain,
alors,
elle est monstrueuse.
Autre restriction, il faut que l'éditeur du jeu autorise Steam Families jeu par jeu. C'est-à-dire qu'un éditeur peut très bien décider que ce jeu en particulier n'est pas disponible pour les autres.
Ça fait radin quand même. Hein.
Ça fait un petit peu radin.
Ouais.
Non, ce que je veux dire, c'est que généralement, les éditeurs, ils bloquent tous les jeux qui sont en test, pas encore sortis, des trucs comme ça. Donc ça limite un petit peu l'intérêt du truc. Je ne sais plus ce que je disais. Margot Robbie,
oui.
Que vous connaissez de films comme Suicide Squad et Barbie, deux fois le même film. Non, si tu réfléchis, c'est le même scénario. C'est exactement le même film. A annoncé la production d'un film dans l'univers de... Il faut que tu devines. C'est un jeu vidéo. C'est...
Lara Croft.
C'est un jeu vidéo, donc c'est un indice. Non, pas du tout. Dans l'univers de The Sims.
Ils font que des trucs à la con.
Ouais, mais ça marche,
mais
tu vois.
Mais pourquoi pas, ouais.
Je veux dire, quand ils ont annoncé Barbie...
tout le monde s'est moqué. Monde s'est dit, en fait, c'est le meilleur film du monde.
Il n'y a pas d'histoire. Comment tu vas faire? En fait, ils ont réussi.
Pourquoi pas?
Et donc là, il n'y a pas d'histoire, mais peut-être qu'ils vont réussir. Hein, voilà. Ça va être co-écrit par Kate Herron, qui est la réalisatrice de Loki.
Loki, la série?
Oui, Loki, la série avec Loki. Ouais. D'où le titre Loki.
Non, mais je sais pas, il n'y a,
pas un... Loki,
non, non, mais y a pas un film Loki, non, j'en sais rien. Il y a tellement de conneries là, dans le truc, je m'y perds, moi, excuse-moi.
C'est la série Disney+. Non,
qui était pas mal, non?
Madame Herron, qui a réalisé Loki, c'était cool. Elle va aussi donc réaliser le film et co-écrire le film.
Et voilà. Il ne pouvait pas prendre celui qui a écrit Barbie, plutôt? Ou celle qui a écrit Barbie?
Bah, visiblement, non.
Bah, c'est con, quand même.
Bah oui, mais peut-être qu'elle est occupée, quoi.
Ben ouais.
Allez, petit agenda des sorties pour cette semaine, assez léger, mais on va quand même en parler. Trois sorties notables cette semaine. Ouais, mais ça va bien se passer, à ça.
J'en peux plus, moi.
Tout va bien. Le 25 mars, sur PC exclusivement, sort la version finale et définitive 1.0 de Palia. Palia, c'est ce MMO de ferme, comme on parle de Stardew Valley.
Oui.
C'est ce MMO de ferme, c'est une réalisation chinoise, si je dis pas de bêtises, c'était mignon, mais ça m'avait pas non plus...
T'avais pas transcendé, il me semble.
Ça m'avait pas transcendé, non, c'est ça. C'est pas quelque chose... J'avais fait l'Early Access, je suis pas hyper motivé pour le retester en version finale. Mais voilà, si vous voulez un jeu zen où il faut couper du bois et récupérer du fer et fabriquer des trucs dans ta ferme...
Ouais, mais avec des gens.
Mais avec d'autres gens qui
le
vont...
Le problème, c'est ça. Ouais. Tu peux pas être...
Le côté MMO, j'ai toujours pas compris l'intérêt, mais ouais. Voilà.
Tu peux pas être détendu quand il y a des gens à côté, quoi.
Ouais, c'est sûr. Sur PlayStation, Xbox, Switch et PC, sortira South Park Snow Day, un jeu multijoueur dans l'univers de South Park, qui a l'air très mignon, très sympa. Ça
mignon,
se joue à
4, South Park.
Mignon à l'échelle de South Park, tu vois. C'est, ouais. Voilà, bon. C'est mignon, c'est comme ça. Ça, c'est le 26 mars et le 28 mars sort sur PC et sur Switch. Un petit jeu indépendant qui s'appelle Paper Grinder, c'est un jeu d'action. C'est le style, c'est très. C'est vu de côté. Et tu joues une petite fille avec une foreuse. Et en fait, ça va vachement vite. Tu te balades dans les niveaux à récupérer tous les diamants, tous les trucs comme ça et à forer dans les. À travers le sol, le truc, le machin, les plafonds. C'est nerveux, c'est fun, c'est rigolo. La démo était très cool, elle était sur le Steam Next Festival, je sais pas quoi là. Mm-hmm. La démo était cool, le jeu final sort le 28 mars sur Switch et PC. Si vous aimez bien les petits jeux indés, allez voir au moins un trailer de Paper Grinder. Ça va bien vous parler sur le type de jeu. Voilà pour cet épisode. Aza, merci. Ouais.
Merci à toi.
Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. La suite des aventures de La Belle et Gamer, c'est la semaine prochaine, lundi prochain pour un nouvel épisode, avec peut-être, teasing, peut-être un épisode DLC cette semaine. Restez à l'affût.